Alors, je vais présenter, ou plutôt représenter, Sacha Bourgeois-Gironde. Je dis représenter parce que il est déjà venu l'an dernier au lundi de la philosophie. Donc, c'est Sacha Bourgeois-Gironde le retour. Nous essayons, en général, de ne pas répéter les gens, mais ce n'est pas simplement parce qu'il est une star. C'est essentiellement parce que nous avions à cœur d'avoir une série ou une sous-série position-argument qui soit centrée sur des questions métaphysiques, et nous avions choisi comme thème de cette année la question du temps, et qu'il est un de ceux qui, s'intéressant aux problèmes métaphysiques, a particulièrement travaillé sur le temps, en particulier parce qu'il a été un des éditeurs et commentateurs d'un texte de MacTaggart. Sous quel titre exactement l'as-tu publié ?
Temps, éternité, immortalité.
Voilà, temps, éternité et immortalité. Ouais. Un texte qui, de MacTaggart, dont il nous parlera sans doute ce soir, entre autres, qui a eu une énorme influence. Ça a été un des textes, disons, qui a le plus suscité dans les pays, surtout anglo-saxons, de littérature secondaire dans tout le XXe siècle, de tous ceux qui se sont intéressés à la question du temps, et qui était très, curieusement, dans les pays, disons, plutôt latins, curieusement, très peu travaillé ou très peu connu. Sacha Bourgeois-Gironde en a fait une édition, un commentaire, il était tout à fait à même, évidemment, de reprendre pour nous ces questions que nous allons traiter, que Frédéric Tneff a déjà abordées en ouverture du premier semestre. J'ajoute que depuis, il a publié d'autres choses. Il a publié sa thèse qui était sur les lectures analytiques du cogito cartésien. Il a publié aussi un livre dans la collection Philosophie qui s'appelle Causalité et...
Temps et causalité.
Temps et causalité, donc c'est en plein sur la question du temps. Mais là, c'est moins centré sur le temps, si tu permets, que plutôt centré sur la question de la causalité. Et évidemment, ça reprend une question assez classique sur la causalité et sur l'ordre du temps. Donc, collection philosophie aux presses universitaires de France. Donc, à ce double titre, Sacha a été indiqué pour reprendre ces questions pour nous cette année. Donc, je rappelle que c'est la première des sous-séries qui s'appelle « Position et argument ». Et comme au premier semestre, nous commençons par un exposé, donc, qui sera suivi d'une discussion que nous espérons vigoureuse sur la question métaphysique du temps. Je lui passe la parole.
Donc, merci beaucoup pour cette seconde invitation. Donc, la dernière fois, j'avais parlé des illusions modales, des modalités, et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet complètement différent a priori, mais qui est un sujet de métaphysique très abstrait concernant le temps. Donc ne vous attendez pas à ce que je développe de quelconques arguments linguistiques concernant les énoncés temporels, parce que je ne ferai pas ça, ni même que je fasse de la philosophie de la physique. Je ne ferai absolument pas ça. Je vais vraiment faire développer un argument. En fait, je vais développer une position à partir d'un certain argument. Enfin, vous pouvez prendre les choses comme vous voulez. En fait, je vais parler d'un argument duquel peuvent se dégager quatre positions, et je vais défendre parmi ces quatre positions une position particulière à partir d'un argument. La position que je vais défendre fait partie d'une famille de positions concernant le temps et concernant peut-être d'autres choses que le temps. C'est une position que j'ai appelée, enfin que Francis, qui a écrit mon titre en fait, parce que j'étais incapable de trouver un titre, Francis a appelé variété du réalisme perspectival concernant le temps. Ça veut dire que je vais définir dans un premier temps cette position qu'on appelle le réalisme perspectival, mais pour vous en donner déjà une impression. Il s'agit d'une position qui pense que le présent, le futur ou le passé sont des aspects essentiels ou sont des traits essentiels de la réalité dont il faut parler comme ça, en termes de présent, de passé et de futur, et pas en d'autres termes. Donc on est obligé, pour caractériser certains traits de la réalité, d'utiliser des prédicats temporels comme passé, présent, futur. Cette position n'est pas claire du tout, telle que je l'énonce. Et comme vous allez le voir, j'ai passé la première partie de mon exposé à essayer de faire mieux que ce que je viens de faire. c'est-à-dire essayer de caractériser cette position ou cet ensemble de positions qu'on peut appeler le réalisme perspectival. Quel problème on veut poser quand on dit que la réalité comporte des traits temporels essentiels qui ne sont exprimables que par des prédicats comme passé, présent, futur ? Qu'est-ce que c'est le problème qu'on désigne de cette manière-là ? Alors ça, je vais faire ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais effectivement présenter ce que j'avais fait il y a 8 ans, en fait. Donc c'est très ancien, j'ai oublié de me replonger là-dedans, donc je n'ai pas du tout la mémoire fraîche sur ce travail sur MacTaggart, mais je me souviens à peu près de la structure de la preuve et j'ai essayé de vous en parler. Et pourquoi elle est intéressante, cette preuve de l'irréalité du temps qu'a donné MacTaggart en 1908, au regard de la position ou des positions que je veux présenter. Pourquoi ? C'est très simple dans un premier temps, c'est que MacTaggart a écrit en 1908 un papier, un article dans la revue Mind, qui s'appelle « The Unreality of Time ». Donc il a une position irréaliste ou anti-réaliste concernant le temps. Or moi, je veux présenter une position réaliste concernant le temps. Alors une fois que j'aurai caractérisé qu'est-ce que ça veut dire de présenter une position réaliste, je serai forcément confronté à l'argument de MacTaggart comme étant une objection face à ma position, puisqu'il a pensé présenter une position anti-réaliste concernant le temps. Alors ce que je ferai dans la troisième partie de mon exposé, après avoir... tenter d'expliquer un petit peu ce que cet argument curieux de MacTaggart, vous verrez, c'est un argument qui n'est pas forcément intuitif, qui est un petit peu curieux, ça va être un peu difficile à ce moment-là, peut-être. Mais vous pouvez m'interrompre autant de fois que vous voulez pour bien comprendre. Ce que je ferai dans la troisième partie, c'est finalement une sorte de clarification ou d'explicitation de ce qu'a voulu faire MacTaggart du point de vue d'une conclusion qui est tranchée en termes de réalité ou d'irréalité du temps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai explicité à l'intérieur de l'argument de MacTaggart la notion de réalité qu'il utilise. Quelle notion de réalité est utilisée dans cet argument ? Ce faisant, je vais donc généraliser un petit peu cet argument, je vais lui donner une forme un peu plus, disons, générale, si ce n'est abstraite, et en explicitant la notion de réalité qu'a utilisée MacTaggart, qu'utilise des arguments de cette forme, je vais être amené à avoir un choix, en fait, entre plusieurs positions qui vont dépendre de plusieurs conceptions de la notion de réalité à travers l'argument une fois qu'il sera explicité. Et vous verrez que la conclusion unique que tire MacTaggart, à savoir qu'il a un argument assez, en fait, qui est logiquement valide, en faveur de l'irréalité du temps, dépend vraiment d'une certaine conception de la réalité. Et quand on explicite ça, on a d'autres positions qui s'ouvrent. On a trois autres positions qui s'ouvrent. Et c'est pour ça que j'appelle ça variété du réalisme perspectival, parce qu'on a au moins, en plus de la position anti-réaliste que défend MacTaggart concernant le temps, à savoir le temps est irréel, on va avoir trois positions réalistes possibles concernant le temps, une fois qu'on aura opéré certains choix sur la notion de réalité dans l'argument. Et la question que je poserai pour finir, c'est quelle variété de réalisme temporel on peut accepter, pourquoi, et comment le fait d'accepter une certaine variété de réalisme temporel va nous permettre de répondre aux questions initiales, à savoir qu'est-ce que c'est qu'être un réaliste temporel, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça, parce que ce n'est pas clair du tout. Alors permettez-moi de reprendre donc au départ et de commencer à poser le problème du réalisme temporel, que j'appelle pas réalisme temporel donc au début de l'exposé, que j'appelle réalisme perspectival, parce que c'est apparemment, il se présente comme un aspect d'un problème plus général concernant l'admission de certains faits dans la réalité. Quelque chose qu'on a envie de dire sur la réalité, c'est qu'on est capable d'en fournir une description complète. C'est une intuition assez partagée. C'est-à-dire que quand quelque chose est réel, ou même la réalité en général, c'est quelque chose dont on doit pouvoir fournir une description complète. C'est peut-être une intuition qui n'est pas si partagée que ça en réalité, mais disons que c'est une prémisse que se donnent beaucoup des arguments réalistes ou anti-réalistes que je vais discuter. Ce qu'on veut dire souvent par donner une description complète de la réalité, c'est que la description de ce qui est réel, la description de ce qui est réellement là, doit être indépendante d'un quelconque point de vue. Il y a un rapport assez intuitif que je ne développerai pas, en tout cas pas maintenant, sur le rapport entre description partielle et occupation d'un point de vue par le descripteur. Et là, on a exactement la contrepartie. C'est-à-dire que quand il n'y a pas que donner une description complète de la réalité, c'est la donner de manière aperspectivale. L'objectivité d'une description de la réalité, ou l'objectivité même de la réalité, est souvent liée au fait qu'on ne décrit pas la réalité d'un certain point de vue. Donc on a cette intuition combinée, absence de point de vue et complétude de la description concernant la réalité. Et face à ça, face à ces prémices relativement intuitives concernant la réalité, on peut se poser la question suivante. Est-ce que le fait que je suis ici, maintenant, est un fait différent du fait que Sacha Bourgeois-Gironde est le 13 février, je crois, 2006, à telle heure, dans la salle des actes de l'École normale supérieure. Ou est-ce que c'est le même fait dont on parle ? Est-ce que je suis réellement ici d'une autre manière que Sacha Bourgeois-Gironde est réellement à YAT, en salle des actes à 17h30, etc. C'est une question assez bizarre. La question est de savoir si la réalité contient un seul fait qui valide ces deux énoncés, un énoncé qui reflète un certain point de vue, je suis ici maintenant, et un énoncé qui est présenté de manière objective, Sacha est à tel endroit, à telle heure. Est-ce qu'on a un même fait, donc, ou est-ce qu'on a deux faits, là ? Alors, c'est pas la forme définitive de la question, si vous voulez. C'est une manière naïve, directe, de poser la question du réalisme perspectival. C'est-à-dire, est-ce que, en plus des faits tels qu'ils sont décrits objectivement sans point de vue, le fait d'introduire un point de vue dans la réalité et de décrire la réalité à partir de ce point de vue introduit des faits supplémentaires ou pas ? C'est ça la question, disons, telle qu'elle peut être posée au départ. La conclusion de mon exposé, vous verrez dans un certain temps, c'est de dire que cette question est extrêmement naïve, mais disons que cette façon de poser la question est extrêmement naïve. La question elle-même n'est pas naïve, mais cette façon de poser la question est extrêmement naïve, voire maladroite. Mais c'est souvent comme ça qu'on la rencontre dans la littérature, si vous voulez, sur le sujet des points de vue et sur le sujet des perspectives. C'est-à-dire que la question des perspectives, la question de la réalité perspectivale, la question de la réalité à partir d'un point de vue, est souvent posée comme la question de l'existence ou de la réalité de faits supplémentaires par rapport aux faits qui sont décrits d'un point de vue objectif. C'est pour ça que j'ai intitulé cette diapositive « Est-ce qu'on a des faits supplémentaires qui correspondent à la description de la réalité d'un point de vue ?» J'espère que c'est clair et vous pouvez m'interrompre à chaque fois. J'insiste sur le fait qu'on veut parler de faits différents dans la réalité et pas simplement de représentations différentes d'un même fait. Ce dont on veut parler, c'est qu'un certain type de fait, peut-être qu'on pourrait appeler des faits indexicaux ou des faits perspectivaux, je préfère l'appellation faits perspectivaux, correspondent éventuellement à un certain type de représentation. Donc ce n'est pas deux représentations différentes d'un même fait, c'est certainement deux types de représentations, mais est-ce qu'il y a des faits différents qui correspondent à ces différentes représentations ? Donc c'est toujours la question du fait supplémentaire qui correspondrait éventuellement à un certain type de représentation de la réalité. C'est-à-dire qu'on aurait des formats de représentation de la réalité distincts, certains objectifs sans point de vue, certains centrés avec des points de vue. Et est-ce qu'ils nous donnent accès aux mêmes faits ou est-ce qu'ils nous donnent accès à des faits différents, mais qui sont tous des faits contenus dans la réalité d'une certaine manière ? Donc là encore, c'est un prolongement de la même question et de la façon peut-être un peu directe et maladroite de poser la question des faits perspectivaux. Alors je vais préciser un petit peu cette question maintenant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on énonce des énoncés et on forme des représentations à partir d'un certain point de vue. On est des êtres limités, etc. On est des êtres situés. Donc, d'où le recours à des formes, soit qu'on appelle indexicales d'expression dans le langage, soit plus généralement à un ancrage, à une situation de nos représentations. C'est ce que j'appelais ici l'ancrage cognitif, l'ancrage de nos représentations, qui est généralement situé en première personne, qui est généralement aussi centré spatialement, là où je me trouve, mettons, quelque chose comme ça, et aussi temporellement, l'instant où je me trouve. Et à partir de ce point de vue, cognitivement centré, cognitivement ancré, il semblerait que certains aspects de la réalité se présentent à moi. Ça, ce n'est pas un point qu'on peut spécialement contester. Le point, la reprise de la question précédente concernant l'effet supplémentaire, l'effet perspectivaux, l'existence de faits perspectivaux, se repose alors de la manière suivante. On se demande, est-ce que la réalité comporte réellement ces aspects ? Donc, c'est toujours la même question. Est-ce que la réalité est composée de faits qu'on peut appeler temporels, de faits égocentriques ou de faits spatialement centrés ? Est-ce que la réalité est vraiment comme ça, telle qu'elle se présente à moi ? Donc c'est cette question-là qu'on peut poser apparemment, concernant les faits supplémentaires, les faits qui vont plus loin ou qui s'ajoutent à la description objective non perspectivale de la réalité. Qu'est-ce qu'on fait quand on se pose cette question ? Je pense qu'il y a un point qu'il faut souligner, c'est qu'on ne se pose pas simplement une question, enfin on se pose certainement une question sur l'adéquation entre des représentations et des faits, mais cette question de l'adéquation entre des représentations et les faits, on ne se la pose pas spécialement en termes de vérité. C'est-à-dire on ne se demande pas simplement... Excusez-moi, là ça va ? Ça prouve bien que je ne suis pas une star, parce que je n'ai vraiment pas l'habitude. On se pose cette question de l'adéquation entre représentation et fait, non pas en termes de vérité, non pas en termes de truth-making, la question n'est pas celle-ci, la question n'est pas seulement, ou n'est pas spécialement, spécifiquement celle de savoir si certains faits rendent vrais certains énoncés. La question n'est pas de savoir si le fait que je suis ici maintenant, qui peut être décrit de manière objective ou de manière indexicale, perspectivale, rend vrai l'énoncé que je suis ici maintenant. Ce n'est pas une question qui concerne la relation d'adéquation, de vérité entre des faits et des énoncés. On pose une autre question différente et qui n'est pas forcément d'ailleurs la converse de la question du truth-making, de la question précédente, qui est de savoir si certains énoncés donnent accès à certains traits de la réalité. Il peut y avoir évidemment un recoupement assez large entre la question du truth-making et la question du ce que j'appelle du reality-making, qui est une expression de bon cru et qui est donc maladroite. Mais j'utilise ça uniquement pour montrer que ce n'est pas exactement la même question qu'on pose. Il ne s'agit pas de savoir si on a des conditions de vérité spéciales des énoncés perspectivaux. Parce que je pense que non, en réalité. Donc il ne faut pas se tromper de question. La question est celle de savoir si, les représentations situées et les énoncés indexicaux qu'on utilise nous donnent accès à des aspects essentiels de la réalité. Donc c'est cette question-là qui m'intéresse, qui n'est pas la même question que l'autre. Alors je soutiendrai la thèse suivante, pour les besoins de ma reconstruction particulière de l'argument de Marc Taggart qu'on verra ensuite, vous verrez comment ça se goupille. Mais je dirais que cette question que je viens de poser, cette question du reality making, cette question de différence entre types de faits, concerne spécifiquement le temps, plus que d'autres expressions perspectivales ou d'autres présentations perspectivales. Par exemple, on en connaît trois essentiellement. Hein. Du coup, que j'ai utilisé, la personne, l'espace et le temps. La question que je pose, donc j'utilise une petite relation d'équivalence R qui veut dire en fait tout simplement est-ce que c'est équivalent dans la réalité, est-ce que c'est le même fait dans la réalité, est-ce que la réalité inclut aussi bien ce qui est à droite et ce qui est à gauche, est-ce que la réalité considère comme un même fait et non pas deux faits distincts ce qui est à droite et ce qui est à gauche, d'accord, est-ce qu'on a une seule réalité à droite et à gauche, c'est ça que veut dire ma petite relation au milieu équivalent R. Est-ce que le fait que je suis un homme est un fait qui est absolument co-réel, on va dire, au fait que Sacha Bourgeois-Gironde est un homme ? Est-ce que le fait que que Sacha Bourgeois-Gironde, pour utiliser un lexical, est ici, est le même fait que Sacha Bourgeois-Gironde est à cet endroit qu'on peut situer sur un espace de coordonnées ? Est-ce que le fait que mon exposé a lieu maintenant, que l'exposé a lieu maintenant, est dans la réalité le même fait que le fait que l'exposé a lieu à l'instant T sur une échelle de temps, etc. Donc toujours la même question autour de laquelle je tourne. Et je dirais, donc la question de savoir s'il s'agit de deux types de faits réellement distincts, et pas réellement distincts, l'adverbe réellement a tout son sens ici. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont inclus comme un seul fait ou comme des faits distincts dans la réalité ? Alors, la thèse, je ne dirais pas que je la défends, mais que je pose ici, je vais essayer quand même de la défendre minimalement, est de dire que le temps ne peut être fidèlement représenté qu'à l'aide d'expressions perspectivales, ce qui n'est pas le cas pour l'espace ou pour les personnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les expressions perspectivales concernant le temps, les prédicats présent, passé, futur ou l'adverbe maintenant, par exemple, donnent accès à une forme de réalité qui n'est pas co-réelle avec une expression non perspectivale correspondante. Donc, je soutiendrai que pour les deux premiers cas, les expressions sont ce que j'appelle co-réelles. Pour le troisième cas, les expressions ne sont pas co-réelles, au sens où ces expressions peuvent nous donner accès à appelons ça des aspects, ou à des morceaux de réalité distincts, c'est-à-dire à des faits distincts, puisque j'appelle les morceaux ou les aspects des faits pour l'instant, sans plus de qualification. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça au sujet du temps? Pourquoi je dis pas ça au sujet des personnes? Alors il y a plusieurs arguments qui peuvent apparaître à ce moment-là, et je vais en utiliser un essentiellement, qui était celui qu'avait utilisé en grande partie par MacTaggart, enfin c'est-à-dire à peu près comme ça par MacTaggart, qui est que on peut substituer à une représentation égocentrique une représentation décentrée, non égocentrique, et capturer les mêmes faits. Alors c'est ce qu'avait fait Pryor d'ailleurs dans un article sur la logique égocentrique, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les indexicaux je suis, tu es, etc. par des relations purement objectives entre des personnes, comme un peu à la Leibniz, ou peut-être aussi comme ce qu'avait fait Pryor, c'est-à-dire en fait, imaginons des liens de position, des liens hiérarchiques entre les personnes. Une logique de la hiérarchie se substituerait tout à fait, enfin une présentation en termes de hiérarchie, de relations hiérarchiques entre les personnes, capturerait tous les mêmes faits dans la réalité qu'une présentation indexicale des personnes. De même, on peut substituer des coordonnées spatiales complètes à une présentation en termes d'ici et là. Pourquoi on ne peut pas faire ça pour le temps? Pour le temps, on a deux formats de représentation, un format indexical en termes des prédicats temporels que je n'ai, maintenant, demain ou futur, passé ou hier. Est-ce que je peux substituer à cette représentation perspectivale de la réalité temporelle une représentation absolument non perspectivale en termes, par exemple, de cet événement est antérieur à tel autre événement, ou cet événement est postérieur à tel autre événement, ou cet événement est simultané avec tel autre événement? Est-ce que je peux substituer ce deuxième format non perspectival au premier format de représentation perspectivale sans perte, c'est-à-dire en étant capable d'exprimer tout ce qui constitue la réalité du temps? Je reprends mon slide précédent. Il ne s'agit pas de dire, j'ai été prudent là-dessus, que des conditions de vérité doivent être données dans un format ou dans l'autre, de se demander si des conditions de vérité qui sont données dans un format ou dans l'autre divergent, parce que je pense qu'elles ne divergent pas. Il s'agit de se demander si tel format ou tel format capture bien ce qu'on appelle la réalité temporelle, ou capture bien ce qu'on appelle la réalité spatiale, ou capture bien ce qu'on appelle la réalité personnelle. Je dis que dans les deux premiers cas, personnel et spatiaux, pas spatial, les deux formats non seulement sont équivalents en termes de conditions de vérité, mais sont aussi équivalents en termes de capture de la réalité. Je dis que dans le troisième cas, c'est peut-être équivalent en termes de conditions de vérité, c'est-à-dire que tout énoncé temporel peut être validé soit bien par des faits de type qui sont à gauche, soit par des faits de type qui sont à droite, mais que par contre ces faits ne décrivent pas tout à fait la même réalité. Pourquoi? Alors ça c'est un argument qu'on va retrouver dans la suite de l'exposé, parce que ce qu'on veut décrire quand on parle du temps, la réalité telle que se présente à nous, la réalité temporelle telle que se présente à nous, sous la forme de représentation perspectivale, implique une non-permanence des objets qu'on décrit. Implique ce qu'on peut appeler un changement des objets qu'on décrit. Si par exemple on décrit des événements, quand on utilise des expressions temporelles, que ce soit d'un type ou d'un autre, que ce soit des expressions perspectivales ou des expressions non perspectivales, si on décrit des événements à travers ces expressions, on ne veut pas simplement décrire des rapports, des relations entre ces événements, comme ça peut être le cas dans le cas de l'espace et dans le cas des personnes. On veut aussi décrire des changements de ces événements. On veut pouvoir dire, par exemple, qu'un événement a lieu maintenant ou aura lieu, et donc a lieu maintenant ou a eu lieu hier, et que le même événement passe du présent, a lieu maintenant, et que plus tard, je dirais qu'il a eu lieu hier. Demain, je dirais qu'il a eu lieu hier. Qu'un même événement prend successivement des prédicats temporels incompatibles, distincts, et qui change sous le rapport de l'attribution de l'application à lui-même de ces prédicats temporels. Sans rentrer peut-être dans cette question trop en détail pour le maintenant, disons que simplement qu'on ne veut pas simplement décrire des positions permanentes dans un espace temporel, on veut décrire des changements inhérents à notre conception de ce qu'est la réalité du temps. Et de ce fait que le temps implique le changement, pour parler rapidement, on a besoin d'expressions perspectivales. Les expressions non perspectivales et purement objectives, les expressions en termes de coordonnées temporelles et en termes de relations d'antériorité, de postériorité, de simultanéité, ne sont pas capables, c'est un point qu'on pourra discuter tout à l'heure, je préfère pas le faire tout de suite, ne sont pas à même de capturer ce phénomène du changement qu'on attribue essentiellement à la réalité du temps, c'est-à-dire dont on pense qu'il caractérise essentiellement le temps. Ça, c'est un argument qui est défendu pour dire qu'on a peut-être des faits distincts, on accède à des faits distincts à droite, à gauche et à droite de la relation d'équivalence de co-réalité que j'ai essayé d'exprimer là. D'accord ? Alors, si vous voulez déjà clarifier ce slide, on peut le faire, sinon je passe à la suite. Quentin ? D'accord. Tu veux que j'explique ça alors ?
Est-ce que je peux suggérer quelque chose ?
Oui.
La question est de savoir qu'est-ce qu'il y a comme différence entre est-ce que nous avons des informations de plus, tu vas me dire si tu es d'accord avec cette, lorsque nous parlons en termes d'ici, là et là-bas, par exemple, et lorsque nous parlons en termes relationnels, c'est-à-dire 100 km au sud de, 100 km au nord de, etc. D'un côté, ça c'est l'espace. Et d'un autre côté, lorsque l'on dit tel événement est futur, le même événement à un autre moment est dit présent et à un troisième moment est dit passé, est-ce que ce serait la même chose au sens de la même réalité que si l'on dit cet événement, le même événement, par exemple, l'exposé de Sacha Bourgeois-Gironde est antérieur à l'exposé de Quentin Meillassou, par exemple, qui viendra plus tard, mais il est postérieur à celui de Frédéric Neff. Bon, dans les trois cas, et je peux dire il est antérieur de temps que je peux mesurer. Dans le deuxième cas, j'utilise uniquement des mesures, et toute mesure est relationnelle par définition. Une mesure, c'est une relation entre deux choses. Je ne parle pas de mesure avec un étalon fixe, qui est un cas très particulier de la mesure. Hein. Je donne une relation temporelle, une relation spatiale dans un cas, et dans un autre cas, je donne une détermination. C'est-à-dire que dans le cas où je dis que c'est... Alors, la question est la suivante. Lorsque je dis l'argument implicite de... explicite, mais enfin, qui n'est pas très évident ou intuitif de Sacha, consiste à dire, et qui est une reprise de celui de McTaggart, consiste à dire, lorsque je dis c'est ici, il faut bien que je sache où est le locuteur, ce locuteur-là, et je peux toujours le situer en des termes qui sont tout à fait objectifs, n'est-ce pas ? Tu vas me dire si tu es d'accord, c'est-à-dire, je peux dire qu'il est dans telle coordonnée spatiale réelle.
Donc en termes relationnels.
Voilà, je peux toujours le dire. Lorsque je dis l'exposé a lieu maintenant, il ne s'agit pas simplement de savoir quand a été dit cette phrase, il s'agit de savoir s'il a déjà eu lieu. Et on peut, il y a deux conceptions possibles, et c'est là, il y a une conception perspectivale ou réaliste qui dit, au fond, qu'il ait eu lieu ou qu'il n'ait pas eu lieu, c'est purement comme pour ici et là-bas, c'est-à-dire que ça dépend du point de vue extrêmement variable auquel on se place, et il suffirait qu'un autre être humain ayant vécu un siècle avant ou un siècle après, il suffirait de l'avoir dit sous un autre point de vue, et nous aurions exactement un parallèle par rapport à l'espace. Oui, mais réponse, si ça n'a pas encore eu lieu, ça n'a peut-être pas encore eu lieu réellement, c'est-à-dire dans la réalité, et pas simplement par rapport à un observateur. Bon. Et si ça n'a pas encore eu lieu réellement, ça signifie que le fait que quelque chose est susceptible d'être futur, puis présent, puis passé, ça fait partie intrinsèquement du rapport que la réalité a avec la temporalité, et pas simplement des rapports que les événements ont entre eux. Mais c'est la définition même du temps qui suppose ce passage lui-même.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Merci. C'était plus clair, sans doute. Alors, je vais présenter en germe l'argument de McTaggart. Enfin, pas encore, mais je présentais en tout cas une tension entre, entre le temps et la réalité de manière extrêmement générale pour voir comment on pense faire le partage entre les positions que j'annonçais tout à l'heure. Alors si on pense que... Alors oubliez juste provisoirement ce que j'avais dit tout à l'heure. Le slide président, si vous voulez, c'était le moment final de la manière dont on peut poser directement la question du réalisme perspectival ou de l'antiréalisme perspectival. Maintenant, ce que je fais là, c'est de prendre la question de savoir si le temps est réel, et c'est-à-dire donc si la description de ce qui est temporel ne peut se faire sans l'aide d'expressions qui incorporent un point de vue ou sans représentation située. Donc ça, je prends le point de vue de l'intuition qui consiste à dire au tout début de l'exposé, rappelez-vous, la réalité, c'est quelque chose qui est descriptible de manière aperspectivale ou de manière complète. D'accord ? Donc prenons le, imaginons que le temps est réel, du point de vue de nulle part, d'un point de vue objectif, donc là, atemporel en l'occurrence. Si la description de... Alors, si on conçoit la réalité comme étant quelque chose dont on doit fournir une description complète, mais si la description de la réalité temporelle ne peut se faire sans l'aide d'expressions qui incorporent un point de vue, si les expressions qui se trouvaient tout à l'heure à ma gauche, enfin à la gauche de l'écran, sont des expressions qui donnent accès à un aspect essentiel de la réalité, de la réalité temporelle, j'entends. On a une tension entre ces deux prémices, on a un choix qui s'opère, elles vont nous faire aller dans un sens ou dans l'autre, dans le sens du réalisme ou dans le sens de l'antiréalisme, donc il y aura un coût à chaque fois, on devra abandonner un aspect des prémices qu'on aura mis ici. On aura le choix entre dire, bon, bah, il ne peut pas y avoir de description complète de la réalité, abandonnons cette idée, que à la réalité est associée une description aperspectivale et complète, c'était la première intuition qu'on avait eue tout à l'heure. Donc on aura le choix de dire ça. Donc il n'y a pas de description complète de la réalité, mais disons peut-être qu'il y aura des descriptions maximales de la réalité qui seront relativisées à des points de vue temporels. C'est ce que j'appellerai les réalismes perspectivaux. On verra qu'il y en a trois, en fait. Ou alors, si on préserve de manière extrêmement forte, robuste, cette intuition que si quelque chose est réel, on doit pouvoir en donner une description objective, donc dans les termes qui étaient tout à l'heure à ma droite, les termes non perspectivaux, les termes objectifs, c'est-à-dire si ces termes-là suffisent, comme on peut penser que c'est le cas pour les personnes ou pour le temps, pour l'espace, pardon, à nous donner une description complète du temps, si on peut faire ça, d'accord. Enfin, pardon, excusez-moi. Si on doit donner une description complète de la réalité, il faudrait soit la donner dans des termes objectifs, mais si les termes non objectifs perspectivaux sont essentiels à la description de ce qu'est le temps réellement, alors le temps est irréel. Et ça, c'est l'antiréalisme temporel d'un philosophe comme MacTaggart qui fait ce choix. Quand on présente cette tension entre description complète de la réalité et rôle que joue la représentation perspectivale du temps, et on a le choix donc soit admettre une description incomplète de la réalité, donc une description d'un point de vue de la réalité, la description de la réalité temporelle ne peut se faire que d'un point de vue, c'est pour ça que j'appelle ça le réalisme perspectival, et il y en a plusieurs formes, soit alors on dit, ben non, on ne peut pas, donc on renonce à la réalité du temps. Vous voyez bien la tension entre les deux, entre les deux positions. Alors, tout à l'heure, donc dans la deuxième partie de mon exposé, j'ai présenté l'argument de MacTaggart, qui est donc la branche antiréaliste du dilemme que je viens de présenter. Et je vais simplement, pour conclure ma première partie, rappeler alors, de ce cas-là, qu'est-ce que c'est que la position du réaliste perspectival concernant le temps ? Qu'est-ce que c'est la position que j'ai plutôt essayé de construire et de défendre face à une objection comme celle de MacTaggart ? Vous voyez maintenant comment mon exposé dépend complètement d'une clarification de la notion de réalité dans l'argument de MacTaggart pour pouvoir faire se dégager des positions réalistes vis-à-vis de lui. Alors qu'est-ce qu'implique pour le moment une position réaliste perspectivale ? Une position qui dit que certaines manières perspectivales de décrire le temps donnent accès, donc je répète, à des traits essentiels de la réalité. Ça implique d'abord ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un résumé là, ça implique que la représentation perspectivale du temps est irréductible à sa représentation objective ou relationnelle, je vais préciser ça dans un instant, ça implique que notre représentation perspectivale du temps est reality making, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle nous donne accès à un aspect essentiel de la réalité, ça sera un point qu'on pourrait vraiment discuter, et que l'antiréaliste ou certaines formes assouplies peut-être d'antiréalisme discutent. Et ça a comme conséquence qu'on doive substituer, comme je venais de le dire dans la diapositive précédente, qu'on soit forcé de substituer des descriptions maximales relatives de la réalité à une description complète de celle-ci. Alors, face à une telle position, l'antiréaliste temporel soit dira, vous n'avez accès qu'à des... Vous insistez sur vos représentations perspectivales, mais vous êtes dans l'illusion complète. Ce n'est pas ce que dit MacTaggart. MacTaggart ne pense pas que notre représentation perspectivale du temps soit une représentation qui nous donne accès à une réalité complètement illusoire. En quelque sorte, c'est le temps lui-même qui est irréel. Ce n'est pas notre représentation du temps qui est spécialement illusoire. Au contraire, cette représentation perspectivale du temps est quelque chose de parfaitement inhérent à la réalité du temps, pour si seulement il était réel, d'après lui. Ou alors l'antiréaliste peut insister, et c'est ce que fera MacTaggart implicitement, et c'est ça que je vais expliciter, sur le fait que substituer des descriptions partielles et relatives de la réalité à une description complète de la réalité est quelque chose de totalement insatisfaisant quand on parle de la réalité, en fait. Puisque on a admis, dès le départ, une notion de réalité qui n'était pas dépendante de point de vue. Donc voilà comment peut s'exprimer maintenant de manière peut-être un peu plus claire et un tout petit peu moins naïve la position réaliste perspectivale concernant le temps. Et voilà déjà en germe ce à quoi elle est confrontée comme objection venant de l'antiréaliste. Voilà. Donc on passe à la suite, qui est simplement une reconstruction très rapide de la preuve, comme il l'appelle, de la preuve de la réalité du temps qu'a donné MacTaggart, notamment en 1908 et aussi dans son livre sur The Nature of Existence, qui est paru de manière posthume en 1927. Donc je vais prendre des définitions qui sont les siennes et qui vont simplement nous donner un code pour parler de ce dont je parlais tout à l'heure en termes de format de représentation perspectivale ou non perspectivale. Maintenant, on va appeler ça, en ce qui concerne le temps en tout cas, la série A, qui est un ordonnancement des événements en termes de prédicats temporels, passé, présent, futur, et la série B, qui est la présentation objective, non perspectivale, de ces événements dans le temps en termes de relations. Donc d'antériorité, de postériorité, de simultanéité. Donc ça, c'est le vocabulaire qu'a introduit MacTaggart et qui a été repris jusqu'à aujourd'hui dans la littérature. On oublie souvent qu'il y a une série C, je le mets par simple souci d'exhaustivité, elle ne va pas jouer un rôle majeur dans mon exposé, je crois, sauf si vous m'interrogez dessus, qui est de présenter les événements simplement de manière positionnelle et à l'aide d'intervalles. Et donc on a cette relation que la série C munie des intervalles, le fait que A soit entre B et C, par exemple. Ceci, cette présentation en termes d'intervalle des événements, munie d'une direction, va nous donner la série B, donc va orienter la flèche, va donner une sorte de flèche, et va nous donner la série B en termes d'antériorité, de postériorité, de simultanéité. Et si on rajoute une caractéristique comme le maintenant sur la série B, et ben on aura construit de fait la série A.
Une petite précision, juste pour expliquer bien la différence entre A, B, C, peut-être. Une thèse extrêmement classique qui remonte à Aristote consiste à considérer que le temps est quelque chose comme un nombre. La série C, ce serait l'ordre des nombres entiers naturels, mais des nombres cardinaux. B, c'est si vous y ajoutez la direction, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, que le premier vient avant le second, alors que les cardinaux, vous savez que 5 est entre 4 et 6, mais il n'y a aucune raison, a priori, pour que 4 soit avant 5, sauf si vous les considérez comme des ordinaux. Et donc, vous y rajoutez la notion de direction, ça vous donne les ordinaux, et c'est ça la série B. La série B, c'est de dire que tous les événements dans l'histoire du monde ou de l'univers, vous pouvez les ordonner en disant que tous les événements appartiennent à des tranches temporelles qui soient soit antérieures, soit postérieures, soit simultanées. On peut prendre tous les événements et les mettre, et on ne pose pas de questions de type dans cette question-là, on ne pose pas des questions de type si la simultanéité est absolue ou relative, qui sont des questions très importantes en termes de relativité restreinte, mais parce qu'il y a des gens qui ont essayé de voir ça. Là, c'est uniquement une façon de parler, hein, de caractériser l'événement. Et on y rajoute quelque chose d'autre qui est maintenant. Si vous prenez une série, la série antérieure, postérieure et simultanée, vous pouvez simplement, à l'aide d'un indexical qui est maintenant, vous pouvez reconstituer parce que postérieur au maintenant, c'est futur, antérieur au maintenant, c'est, voilà, c'est passé, et simultané au maintenant, eh bien, c'est maintenant. Donc vous avez la série A.
Voilà. Merci. Présent. Alors on a cette thèse importante chez MacTaggart que le temps implique, involves, la série A, qui va se dérouler comme ça, la thèse, si vous voulez. En fait, on a deux thèses conjointes, deux points conjoints, qui sont que l'effet de type A, donc l'effet de type A, tel un événement E est présent ou un événement E0 est passé, etc., ne peuvent être réduits à des faits de type B. Par exemple, A est E est passé ne peut pas être réduit au fait que E est antérieur à un événement présent, par exemple. Pourquoi ? Parce que, d'après MacTaggart, si on n'avait pas de type A, il n'y aurait pas de temps du tout, car le temps implique essentiellement le changement. Alors, je vais expliquer ça. Alors, avant d'expliquer, vous avez cette relation quand même que je voudrais simplement vous montrer, que vous pouvez comprendre déjà. Enfin, c'est une relation que... C'est comme ça que fonctionne l'argument. La série B suffit, d'une certaine manière, à donner le temps au sens... on a des événements qui sont situés dans le temps, hein, c'est ça que ça veut dire, ça ne nous donne pas tout le temps, mais ça nous donne au moins cette situation des événements dans le temps, elle suffit à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'une certaine manière, qu'elle peut fournir des conditions de vérité satisfaisantes. C'est une parenthèse pour les énoncés temporels. D'une certaine manière, elle suffit à donner le temps, d'une certaine manière. Mais si le temps implique le changement, alors on a besoin de la série A, parce que le changement ne peut pas s'exprimer dans les termes de la série B. On a besoin des termes de la série A pour exprimer le changement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si un événement est antérieur à un autre événement, si E1 est antérieur à E2, il est toujours vrai, il sera toujours vrai, il a été toujours vrai que E1 est antérieur à E2. Donc on ne peut pas exprimer un changement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas exprimer comme type de changement ? Ce qu'on ne peut pas exprimer comme type de changement, c'est l'apparition, finalement, des événements dans le temps et le passage dans le temps. Ce qu'on ne peut pas exprimer comme changement, c'est que E1 existe ou existera, est le cas à présent et a cessé d'être le cas. On ne peut pas exprimer « deviendra le cas », « est présentement le cas », « a cessé d'être le cas ». Pour exprimer cette chose-là, qui est le changement, c'est-à-dire l'apparition et la disparition d'un événement dans le temps, on a besoin des termes de la série A. Du moins, c'est l'argument de MacTaggart. Le temps implique le changement, dans ce sens que je viens d'expliquer, et le changement ne peut s'exprimer que dans les termes de la série A. Pourquoi ? Parce que la série B ne fournit que des énoncés qui sont vrais de manière éternelle, qui ne changent pas de valeur de vérité. Et donc il n'y a de changement qu'en vertu du fait qu'un événement M cesse d'être futur, est maintenant présent et deviendra passé. Alors c'est pourquoi on a l'idée que l'effet de type A ne peut pas être réduit à l'effet de type B, et qui est une idée conjointe au fait que sans l'absence de faits de type A, il n'y aurait pas de temps du tout. Là, on parle de faits, on ne parle pas simplement d'expression, car ce sont les faits de type A qui caractérisent le changement ou qui sont le changement lui-même, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, c'est un moment évidemment crucial dans l'argument de MacTaggart. On peut le discuter plus tard, si vous voulez, parce que c'est... Sauf si c'est une question ponctuelle, précise. Quentin, je sens, non ? Poindre. Si une question point chez toi, c'est un changement important, et donc je t'ai déjà convaincu de ça. Alors, l'idée, c'est que malheureusement, donc l'argument de MacTaggart est assez simple en réalité, hein, c'est juste que ces points ne donnent pas forcément lieu à des intuitions partagées, mais je pense que c'est des intuitions profondes. Et dans ma troisième partie, j'ai essayé de généraliser ces intuitions de telle sorte qu'elles vous apparaîtront, si ce n'est comme plus intuitives, mais vous en verrez peut-être un peu plus la portée que là. Là, c'est la version vraiment simplifiée de l'argument de MacTaggart, mais c'est un argument simple en réalité, c'est simplement qu'il n'est pas intuitif. Alors, il y a cette première partie de l'argument que le temps implique la série A, dans le sens que je viens de dire, puis il y a une deuxième partie de l'argument, qui est que la série A est contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire que la série A est contradictoire ? Alors là encore, ça a l'air facile, mais c'est pareil, les intuitions, là, c'est encore pire que dans le cas précédent. Les intuitions sont vraiment, peut-être, semblent bizarres, en tout cas, donc j'essaie de les rendre communicables. Alors, ce qu'on veut dire quand on dit que la série A est contradictoire, ça veut dire que donc on a besoin de la série A, hein, vous avez compris, c'est la partie 1 de l'argument, on a besoin de la série A pour capturer la réalité du temps qui implique le changement, et elle est contradictoire, pourquoi ? Pour une raison qui paraît vraiment un sophisme terrible, qui est que passé et présent, futur sont des prédicats ou des propriétés incompatibles que tout événement possède. Donc, alors vous allez voir, un événement possède à la fois passé, présent, futur. C'est comme si je dis, je suis à la fois assis et maintenant, assis et debout. C'est contradictoire. Alors, vous, évidemment, alors l'argument ne porte pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ce qu'on veut dire, évidemment, parce que MacTaggart dit vraiment ça. Passé, présent, futur sont des prédicats incompatibles, contradictoires. Or, tout événement possède ces prédicats incompatibles. Donc, la série A est contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est évidemment l'objection immédiate. Alors, c'est vraiment prendre MacTaggart pour un imbécile, parce que si on peut faire une telle objection... Hein ? On dit que c'est pas en même temps. Et c'est évidemment la voie de sortie immédiate, spontanée, mais ça marche pas, d'après MacTaggart, comme voie de sortie. On veut spécifier, évidemment, qu'il ne les possède pas, ses propriétés, en même temps, au même moment. Donc on va dire... Non, ce qu'on veut dire, c'est pas qu'il est passé, présent et futur, c'est qu'il sera passé, qu'il est maintenant présent. Hein. On peut dire par exemple, il y a d'autres cas de figure, évidemment. Mais un cas très simple, c'est de dire il sera passé, il est présent et il était futur. Et ça n'a rien de contradictoire. Mais si, c'est toujours contradictoire, d'après MacTaggart, parce que ces trois prédicats ne sont pas en fait que trois prédicats, ils viennent en famille, si vous voulez. En l'occurrence, ils viennent avec six autres, vous allez voir, qui sont là. Qui sont, eux sera passé, ça veut dire passé dans le futur, vous voyez, c'est là, c'est la diagonale, passé dans le futur, eux est présent, ça veut dire présent dans le présent, et eux, le dernier c'était était futur, ça veut dire futur dans le passé. Mais on n'a pas que ces trois prédicats, on a aussi passé dans le passé, présent dans le présent, futur dans le futur, futur dans le présent, futur dans le passé. On doit, en même moment qu'on attribue ces trois prédicats pour relativiser en fait nos assertions temporelles à certains moments, à certaines circonstances, c'est une étape hein, dans l'argument de MacTaggart, on est obligé de prendre la famille, c'est-à-dire en fait tous les prédicats qu'on peut combiner comme ça. Pourquoi en choisir que trois ? Non, il n'y en a pas trois. Alors on peut vouloir relativiser un cran au-dessus et dire bah non, c'est pas passé dans le futur, c'est passé dans le futur par exemple, ou passé dans le futur dans le présent. Mais en fait, à chaque fois, on sera amené à attribuer à chaque étape de la régression, et la régression consiste finalement à relativiser nos assertions temporelles à des circonstances particulières, c'est-à-dire à des positions particulières dans le temps. On sera amené à attribuer la famille, ce que j'appelle la famille, le groupe des prédicats. Et parmi ce groupe de prédicats, quel que soit l'étage de la régression, donc de la relativisation qu'on sera amené à faire, il y aura toujours un noyau contradictoire dans cette régression. Le noyau qui est constitué par passé, présent, futur, dans le présent, dans le présent, dans le présent, qui est équivalent à passé, présent, futur de départ. Alors ça, c'est l'argument de MacTaggart, et c'est pas ce qu'on peut appeler un argument knockdown. Vous n'êtes pas abasourdi par cet argument. Je comprends. On ne sait pas qui gagne. Si c'est l'objecteur ou si c'est MacTaggart, c'est pas du tout évident. L'objecteur a quelque chose de très sensé à dire, c'est-à-dire que les assertions temporelles sont relativisées à des moments, à des circonstances. Et il semblerait que MacTaggart soit aveugle à ce point évident. Alors soit on le prend pour un imbécile, on dit il a pas vu cette chose qui est tellement évidente, mais enfin il l'a vu quand même puisqu'il répond. Et il répond en disant bah non, regardez, à chaque étape de relativisation qu'on peut appeler indexical, en fait, de vos énoncés temporels, vous serez obligé de considérer l'ensemble des prédicats. Alors pourquoi il dit ça ? Il dit ça parce que précisément, il refuse la relativisation indexicale. Et ça, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté dans la suite de l'exposé. Pourquoi il ne veut pas relativiser ces énoncés à des circonstances ? Pourquoi il pense qu'il n'y a pas de circonstances auxquelles sont relativisés les énoncés, mais qu'attribuer des prédicats, c'est attribuer les prédicats en quelque sorte de manière absolue ? Ben ça, c'est un point, ce point-là, qui a trait à sa conception de la réalité, comme on le verra tout à l'heure, à cette conception de ce qui fait la réalité. Enfin, disons que l'argument, pour le moment, il ne rentre pas dans ces détails, parce que MacTaggart, justement, n'a pas explicité son rapport à la réalité, enfin, son usage du terme de réalité, de sa notion de réalité dans son argument, mais il a simplement présenté cet argument comme ça. Et ça, ça a évidemment paru très spécieux à la majorité des philosophes, vous en doutez. Mais d'autres l'ont pris très au sérieux, et pas des moindres. Vous verrez mes références tout à l'heure. Et moi aussi, je prends ça au sérieux. Et je dis, effectivement, à chaque fois qu'on veut relativiser, en fait, on introduit d'autres prédicats dans le contexte. On introduit une liste plus complète de prédicats, et que cette liste plus complète de prédicats contient toujours en son sein un noyau contradictoire qui ne disparaît pas au fur et à mesure de la régression relativiste et prédicative. Donc, c'est ça qu'on veut dire quand on dit que la série A est contradictoire. C'est qu'effectivement, apparemment, pour MacTaggart, l'attribution des prédicats temporels passé, présent, futur se fait toujours de manière conjointe et incompatible. C'est ça qu'il veut dire par contradictoire. Alors, une fois qu'on a admis ces deux étapes, la précédente, le temps implique le changement, donc le temps doit être exprimé en termes de la série A, mais la série A est contradictoire pour la raison qu'on vient de voir, eh bien, sentir la conclusion de l'argument, qu'on appelait tout à l'heure la conclusion antiréaliste. Le temps n'existe pas. Alors vous voyez que tout à l'heure j'ai présenté un dilemme entre antiréalisme, c'est-à-dire contradiction dans la réalité, incohérence dans la réalité, et réalisme perspectival. Ben, le réalisme perspectival, c'est celui qui va être obligé de... qui va admettre, enfin une position réaliste perspectivale qu'on verra tout à l'heure, c'est celui qui va accepter en quelque sorte de relativiser ses assertions temporelles. Mais alors, ce qu'il devra faire, c'est qu'il devra nous dire quelle notion de réalité il utilise. Parce qu'il doit bien sacrifier quelque chose à un moment donné. Donc on aura toujours cette même tension entre attribution des prédicats temporels et réalité. Alors, j'explicite simplement dans cette diapositive ce que je viens de dire. Est-ce que MacTaggart a été victime d'une forme d'insensibilité indexicale ? À savoir, est-ce qu'il n'a pas vu... qu'on pouvait se sortir très bien de sa soi-disant contradiction en relativisant les énoncés à des circonstances particulières d'assertion, et qu'une fois que ce travail de désambiguation était fait, désambiguisation, je ne sais plus comment dire en français, était fait, il n'y avait plus de contradiction, il n'y avait plus de problème. Est-ce qu'il a été absolument insensible à l'indexicalité ? Alors, qu'est-ce que c'est être sensible à l'indexicalité ? C'est-à-dire qu'il y a des circonstances d'application des prédicats temporels. Je n'applique pas maintenant, présent, futur, en bloc, comme ça, dans une même circonstance. Et de fait, je ne vais pas trouver de circonstances particulières dans lesquelles les prédicats peuvent être incompatibles, peuvent être véridiquement assertés au sujet d'un même événement. Il n'y a pas de circonstances où je dis « E est présent, E est futur, E est passé » conjointement. Il n'y a pas une telle circonstance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une circonstance relativement à laquelle au regard de laquelle on relativise nos énoncés, nos assertions concernant les faits temporels ? Eh bien, une circonstance, c'est précisément un outil, une chose, un item qui va nous servir à relativiser et à dissiper la contradiction. Pourquoi MacTaggart refuse les circonstances, refuse la relativité aux circonstances ? Que c'est ça qu'il refuse. Il refuse un outil de désambiguisation très simple. Si on accepte les circonstances, il n'y a plus de circonstances dans lesquelles des prédicats incompatibles peuvent être véridiquement assertés au sujet d'un même événement. Donc, il n'y a pas de raison que les prédicats dits incompatibles ne s'appliquent pas à ce même événement puisqu'ils ne s'appliquent plus dans les mêmes circonstances. Donc, un événement peut être dit passé, présent, futur, sans problème, puisque ce sera des circonstances différentes dans lesquelles il sera dit passé, présent ou futur. Donc, les circonstances sont cet outil-là. Pourquoi MacTaggart le refuse ? Est-ce qu'il est insensible à l'indexicalité ? Puisque c'est précisément ce que fait MacTaggart, c'est refuser cet outil des circonstances, refuser ce recours aux circonstances. Et ce qui produit la contradiction, c'est bien ça. C'est l'absence de relativisation indexicale des assertions concernant le temps à des circonstances. Il n'y a plus de circonstances dans lesquelles on dira « Ben, voyez, il n'y a pas de... » L'argument est le suivant, l'indexicaliste, comme je l'appelle, va dire « Regardez, dans aucune circonstance, on implique conjointement les trois prédicats. » Donc, puisqu'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème pour appliquer conjointement ces trois prédicats. Pardon, il n'y a pas de circonstances dans lesquelles ces prédicats s'appliquent en même temps, conjointement. Donc, il n'y a pas de problème. Ces prédicats peuvent s'appliquer. Hein, c'est ça, l'objection d'un lexicaliste. Et MacTaggart la refuse. Il refuse de relativiser les assertions concernant le temps. Et donc, il est obligé d'admettre la contradiction, ce que j'appelais la régression prédicative, c'est-à-dire la contradiction. C'est-à-dire que tous les prédicats s'appliquent conjointement aux événements. Donc, il est obligé d'admettre la régression prédicative qu'on a vue juste avant, celle-là, et donc la contradiction. Et sa conclusion, alors, que je peux expliciter un instant, c'est que sa conclusion, puisque ces prédicats incompatibles s'appliquent conjointement, toujours, aux événements, la série A est contradictoire, et donc la réalité, enfin, et donc le temps est irréel parce que la réalité ne peut pas être contradictoire. Et ça, c'est la conclusion de l'argument. Donc c'est une autre prémisse sous-jacente à l'argument, enfin un autre postulat, si vous voulez, sous-jacent à l'argument, qui est qu'il n'y a pas de réalité contradictoire. Ça, c'était l'argument de MacTaggart. Il n'y a pas autre chose de plus tellement dans cet argument. Et le point majeur qui a été discuté, c'est est-ce qu'il y a une erreur concernant l'indexicalité dans cet argument. Donc vous avez compris que MacTaggart est anti-indexicaliste, mais perspectivaliste, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne mets pas ces deux termes ensemble. C'est-à-dire qu'il est perspectivaliste au sens où il pense que les représentations de type A, les faits de type A, sont essentiels pour capturer la réalité du temps, mais il pense que ces faits impliquent une contradiction. Or, cette contradiction se serait dissipée de fait si on acceptait une position indexicaliste, si on acceptait que ces expressions passé, présent, futur soient traitées comme ce qu'on appelle des indexicaux, que les assertions les concernant soient relativisées à des circonstances. Donc MacTaggart est perspectivaliste, mais il est anti-indexicaliste. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que maintenant que vous avez eu l'argument originel de MacTaggart, je vais essayer d'expliciter les prémices qui sous-tendent cet argument, donc de le rendre peut-être un peu plus intuitif, ou du moins un peu plus parlant, et de voir qu'on peut dériver la même contradiction que MacTaggart une fois qu'on a explicité ces prémices au regard de la notion de réalité qui est utilisée dans cet argument. Alors une des premières prémices qu'utilise MacTaggart, bon, on l'a vu, c'est que la réalité du temps, pour autant qu'il y en ait une, hein, comporte des faits de type A. Parce que quand on parle du temps, on parle essentiellement de faits de type A, en fait. Du moins, les faits de type A décrivent essentiellement la réalité temporelle. On est aussi ce que j'appelle neutraliste ou neutre. Et c'est ce qu'on vient de voir justement concernant. C'est un aspect de ce qu'on vient de voir concernant l'indexicalité. Et c'est l'idée qu'aucun temps n'est privilégié concernant l'admission de ce qui est réel. Par exemple, MacTaggart ne veut pas admettre que les faits réels soient les faits qui sont présents, soit l'ensemble des faits qui ont lieu maintenant. En fait, la réalité est conçue dans un sens plus neutre. Les faits passés sont les faits réels, aussi bien que les faits présents, etc. Donc ça, aucun temps n'est privilégié concernant la nature ou la constitution de la réalité. Les faits réels ne sont pas forcément les faits qui sont orientés vers le présent, je ne sais pas comment le dire autrement. Il y a aussi une certaine notion d'absolutisme qui sous-tend l'argumentation de MacTaggart. C'est que, et c'est un point différent de la neutralité, et qui fait partie aussi de son refus de l'indexicalité. Neutralité plus absolutisme égale refus de l'indexicalité chez MacTaggart. Mais je ne vous demande pas forcément d'avoir ça en tête, parce que vous pouvez comprendre la suite sans avoir ces équations en tête. L'idée, c'est que là, on a des prémices concernant la réalité. C'est que l'idée de l'absolutisme, c'est que la réalité, la composition de la réalité, ce qu'est la réalité, n'est pas simplement relative, n'est pas irréductiblement relative à un temps particulier. Par exemple, si on parle de la réalité composée par des faits à un certain moment, par exemple le moment présent, en fait, ce n'est pas forcément le moment présent qu'on valorise à ce moment-là. On veut dire, oui, ben voilà, le fait qu'elle est composée au moment présent, mais c'est simplement qu'elle est composée par ces faits. Donc, tout fait occurrent compose absolument la réalité, indépendamment, si vous voulez, du fait qu'il a lieu maintenant et qu'il a lieu, ou qu'il a lieu demain, ou qu'il a lieu hier. J'espère que c'est clair la différence entre neutralité et absolutisme, on va revenir là-dessus. Et on a une dernière prémisse, qui est la prémisse qui donnait lieu à la conclusion chez MacTaggart, c'est que la réalité n'est pas irréductiblement incohérente. Par exemple, si elle est composée par des faits incompatibles, le fait que je suis debout maintenant et que j'étais assis il n'y a pas très longtemps, elle doit être expliquée en des termes de composition par des faits compatibles. Par exemple, là, en l'occurrence, mais ce n'est pas MacTaggartien, j'étais assis tout à l'heure et je suis debout maintenant. Ça, c'est compatible. Donc, on voudrait que la réalité soit cohérente, que sa composition par des faits incompatibles doit être expliquée en termes de composition par des faits compatibles. C'est justement ce qu'on n'arrivait pas à faire tout à l'heure. Mais c'est ces conceptions de la réalité et de la constitution de la réalité qui sous-tendent l'argument de MacTaggart. C'est bien parce qu'il a ces conceptions-là de la réalité qu'il arrive à une contradiction dans son argument. Donc il est à la fois réaliste, il admet que la réalité comporte essentiellement des faits de type A, il est neutraliste, il pense que les faits en général composent la réalité, pas simplement les faits présents, ou que ce n'est pas le point de vue présent qui nous donne accès à la réalité. Il est absolutiste, c'est-à-dire qu'effectivement la réalité est composée par des faits à certains moments, mais ça, ça doit pouvoir être expliqué par la composition indépendamment de ces moments de la réalité. Et il est cohérent, à savoir il n'y a pas de faits incompatibles dans la réalité. Alors évidemment, ces quatre choses-là mises ensemble et qui sous-tendent l'argument de MacTaggart donnent lieu à la contradiction. On ne peut pas tenir ces quatre prémices ensemble et être réaliste temporel. Là, on est d'accord. C'est pourquoi l'argument de MacTaggart est valide. À partir du moment où on a explicité ces prémices, et c'est un travail relativement facile à faire quand on est familier avec l'argument de MacTaggart, ce n'est pas forcément facile à faire à la première lecture, parce qu'on est un peu choqué par l'aspect sophistique parfois de son argument, mais qui n'est pas un sophisme, à mon avis, qui est un argument logiquement valide, à condition qu'on explicite les idées qu'il avait en tête derrière et qui sont à peu près celles-là, je crois. Et une fois qu'on a admis cette thèse concernant la réalité chez MacTaggart, on a la contradiction. La question, c'est de savoir si la conclusion qu'a tirée MacTaggart, à savoir, puisqu'il y a une contradiction, le temps est irréel, est la seule conclusion possible qu'on peut tirer de son argument. Ça, c'est le point que je contesterai. Alors, une fois qu'on... Je vais refaire la dérivation de la contradiction qu'on a vue tout à l'heure, mais de manière peut-être plus intuitive, une fois qu'on a explicité les prémices de MacTaggart. Maintenant, je ne fais plus appel à des choses bizarres comme chez lui. Je fais appel à un argument beaucoup plus naturel, intuitif et plausible, sans doute. Alors, admettons le réalisme. Donc, un fait temporel est le cas à un temps T donné et constitue tel quel la réalité. Admettons la neutralité. Ce temps T auquel le fait temporel a lieu n'est pas privilégié. Hein, la réalité est de manière plausible constituée par d'autres faits temporels qui sont le cas à d'autres temps T'. C'est ça que veut dire la neutralité. Moi, je fais qu'endosser la position de MacTaggart, là, de l'expliciter. Admettons l'absolutisme, ces différents faits, les faits qu'on lui a T et les faits qu'on lui a T', bah, composent la réalité dans un sens absolu. Eh bien, il en découle une incohérence. On est obligé d'abandonner l'incohérence. Si on accepte réalisme, neutralité et absolutisme, il en découle une forme d'incohérence. Si tous les temps T' ne réalisent pas le même fait, comme c'est plausible, sinon... Oui, bien sûr, il peut y avoir une réalité immuable, sans changement, mais alors on perd quelque chose. Il est plausible que la réalité soit constituée de faits incompatibles. L'antiréalisme est généralement la conclusion qui est retenue pour préserver cohérence, absolutisme et neutralité. On abandonne la première prémisse, réalisme. Voilà. Voilà ce que j'appelle une reconstruction plus générale de l'argument de MacTaggart qui explicite sa notion de réalité, qui n'était pas tout à fait explicité dans la première version que j'ai présentée, qui était la version fidèle. Là, c'est une version plus infidèle du point de vue de la forme, mais peut-être plus fidèle du point de vue plus claire du point de vue des intuitions. L'antiréalisme, c'est la conclusion qui est retenue pour préserver la cohérence, mais pas seulement la cohérence, mais aussi l'absolutisme et la neutralité. Et l'absolutisme et la neutralité, c'était ce qui guidait son intuition anti-indexicaliste. Tout à l'heure. Donc voilà. Comment on peut dériver la contradiction? Et que fait alors le réalisme par rapport à cette conclusion antiréaliste MacTaggartienne? Il peut faire comme tout à l'heure, échapper à la contradiction en relativisant les assertions à des circonstances temporelles différentes. Mais il ne peut pas faire ça s'il admet un point de vue neutre. C'est-à-dire, un point de vue neutre, c'était que le temps T auquel ont lieu les événements n'est pas un temps privilégié du point de vue de la composition de la réalité. Et que la réalité est de manière plausible constituée par d'autres faits temporels qui ne sont pas le cas forcément à ce moment-là. Donc, il peut essayer d'échapper à la contradiction en relativisant les assertions, en n'étant pas absolutiste en quelque sorte, mais s'il est neutraliste, il a quand même des contradictions en vue. Donc le réaliste, c'est quelqu'un qui est obligé d'osciller entre des formes inacceptables de relativité et des formes d'incohérence, comme on va le voir. C'est assez ennuyeux. Donc l'argument, le problème, si vous voulez, que pose l'argument de MacTaggart dans sa version généralisée à un réaliste perspectival concernant le temps, c'est la mise en évidence d'une tension entre absolutisme, aussi neutralité d'ailleurs, et cohérence. Mais la mise en évidence de cette tension a quand même une vertu argumentative, c'est que tout à l'heure on avait l'impression que l'argument de MacTaggart était spécieux, hein, concernant la régression prédicative, qui répondait pas forcément très bien à l'objection que lui faisait l'indexicaliste, l'homme qui voulait relativiser les assertions. Maintenant on comprend un peu mieux pourquoi il voulait pas faire ça, c'est parce qu'il a une conception absolutiste et neutre de la réalité, qui sous-tend son argument. Donc une fois qu'on a exhibé ces prémices sous-jacentes concernant la réalité de l'argument de MacTaggart, on comprend mieux son attitude vis-à-vis de l'indexicaliste, et on comprend mieux comment l'indexicaliste sera quelqu'un qui sera rejeté du côté de du réalisme temporel, mais au prix d'une forme d'incohérence ou d'un abandon, en tout cas d'une des prémices importantes de l'argument. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis là ? Oui, alors est-ce qu'on a des positions alternatives à celle de MacTaggart ? Ben oui, je pense, on en a trois. Maintenant, c'est facile de les comprendre. Il suffit de cocher les prémices. C'est pas très compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme c'est très trivial maintenant, c'est trivial sur le papier, de choisir d'abandonner une des prémices, par exemple d'abandonner l'absolutisme, ou d'abandonner la neutralité, ou d'abandonner. MacTaggart, c'est celui qui abandonne le réalisme. Alors, préservons le réalisme, on est réaliste. On est réaliste perspectival. Et abandonnons une des trois autres prémices. Et puis, voyons qu'est-ce que ça donne comme position à chaque fois. C'est le petit travail typologique que je vais faire maintenant. Voyons ce que c'est qu'un réaliste, voyons quelle forme de réalisme on a concernant le temps, et voyons ce que ça implique sur le rapport entre point de vue et réalité, puisque c'est le sujet de mon exposé. Quelle variété de réalisme temporel on peut accepter ? Commençons de manière standard. Et moi, évidemment, j'adopterai, pour les besoins de la cause, et même par sincérité, le réalisme le moins standard, vous verrez tout à l'heure. Je suis un réalisme... Alors, un réaliste standard, c'est simplement celui qui rejette parmi les quatre prémices, donc réalisme, absolutisme, neutralité, enfin réalisme, neutralité, absolutisme et cohérence, celui qui rejette la neutralité et qui admet les trois autres. Donc c'est quelqu'un qui pense qu'il y a vraiment un temps privilégié, c'est plutôt ce qu'on appellerait un présentiste, par exemple. C'est pas tout à fait ça qu'on appelle un présentiste, mais on peut dire ça quand même un petit peu. Il y a un temps privilégié vers lequel l'ensemble des faits réels est dirigé, c'est-à-dire de ce temps-là, à partir de ce temps-là, on a la réalité, d'une certaine manière. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire plus précisément que l'effet temporel constitue bien la réalité en un sens absolu, mais le point de vue temporel fourni par le présent, par maintenant, est celui relativement auquel les faits qui constituent absolument la réalité ont lieu. C'est ça que ça veut dire, présentiste, ou disons présentiste dans ma bouche, ou réaliste standard. Donc, un peu, tout petit peu plus clairement, je l'ai codifié en bas, là, la réalité est constituée par un fait temporel F au temps T. Si la réalité est constituée par ce fait temporel F, quand T est présent. Et par souci de clarté, j'ai contrasté ça avec un antiréaliste. Parce qu'un antiréaliste garde la neutralité, et c'est ça qu'on voit apparaître dans le contraste. Un réaliste standard refuse la neutralité, il dit la réalité est constituée par un fait temporel F quand F est présent. Un antiréaliste, c'est quelqu'un qui garde la neutralité, alors ça donne ça. Ça donne la réalité est constituée par F à T, par un fait temporel autant T, si la réalité est constituée par F à T, avec des tirés, avec des traits d'union, c'est-à-dire par l'occurrence de ce fait à T. Là, on a un point de vue temporel, le présent, duquel on considère la constitution de la réalité. Dans le cas de l'antiréaliste, on n'a pas ce point de vue. On est neutre concernant le point de vue duquel on considère la réalité. Et on dit il est constitué de manière absolue, pardon, de manière neutre et absolue aussi d'ailleurs, par l'occurrence de ce fait AT. Donc ce qu'on bouge finalement, quand on est neutraliste, c'est le FAT qui est avec des traits d'union comme ça, qui est un bloc en fait. Là, c'est un certain point de vue qu'on prend sur la réalité, le point de vue du présent. C'est ce qu'on appelle un réaliste standard. Un réaliste standard concernant le temps considère que le présent est un point de vue privilégié sur la réalité. Et tout à l'heure, vous verrez, je dirai exactement qu'est-ce qu'on entend par point de vue privilégié sur la réalité dans le réalisme standard. Alors, une deuxième forme de réalisme, c'est un réalisme non standard 1. C'est quelqu'un qui conserve la neutralité, mais qui abandonne l'absolutisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la constitution de la réalité est relative à différents temps. Par exemple, la réalité est constituée du fait que je parle et du fait que je me tais, mais elle est constituée par ces faits en les incluant à différents temps et non pas dans un sens absolu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend un point de vue sur la constitution de la réalité, c'est ça dont je parle, de quoi est constituée la réalité, qui est relativisée à des temps d'occurrence des différents faits qui la composent. Aucun point de vue n'est privilégié. On est neutre. Aucun point de vue n'est privilégié, comme dans le cas du réalisme standard. Un certain point de vue, le présent, était privilégié pour dire qu'est-ce qui est réel, ou quand c'est réel, plutôt. Et là, par contre, on dit que la réalité, elle est composée par des faits temporels F, et éventuellement un fait F bar, qui veut dire un fait F éventuellement contraire. Par exemple, je suis assis, je suis debout, je parle, je me tais. Elle est constituée par F à T, et par non F à T prime, par exemple. Donc, il n'y a pas de point de vue privilégié à partir duquel on considère, si vous voulez, la constitution de la réalité, le passé, le présent, le futur, n'importe quel temps sont des temps aussi bons les uns que les autres pour considérer de quoi est constituée la réalité, qu'est-ce qui est réel. Mais on abandonne une forme d'absolutisme, on relativise la constitution de la réalité à ces différents temps, à ces différents points de vue duquel on la considère, à partir desquels on la considère. On envisage. Alors, j'ai précisé tout ça, maintenant, en contrastant les conceptions de la réalité relatives à un point de vue qui sont inhérentes à ces trois positions qu'on a vues pour l'instant, à savoir l'antiréaliste, le réaliste standard, celui qui abandonne la neutralité, et le réaliste non standard, celui qui abandonne l'absolutisme. Alors, je fais ça parce que c'est quand même des questions que je m'étais posées il y a quelques temps, quelques années, après avoir fait ces choses sur MacTaggart et autres. Je m'étais posé des questions concernant la nature des points de vue. Donc là, j'ai essayé de combiner les deux aspects. La question, est-ce que les points de vue nous donnent accès à la réalité ? La question que je traite ce soir. Alors, l'antiréaliste, c'est quelqu'un qui va nous dire que chaque point de vue temporel, chaque moment, chaque instant, nous présente des facettes de la réalité. Mais que ce qui est propre à la réalité, ce n'est pas cette facette. Donc on ne nous donne pas accès réellement à une réalité d'un point. Enfin, les points de vue ne nous donnent pas accès à des aspects essentiels ou propres à la réalité. Ils nous donnent accès à des facettes de la réalité, mais ce qui est réel, c'est pas cette facette de la réalité, c'est simplement que cette facette peut-être est réalisée pour moi à un temps T, par exemple. Mais que la facette en elle-même n'est pas la réalité. C'est une conception tout à fait banale. Le réaliste standard, c'est quelqu'un qui va nous dire que la réalité à un temps T différent du présent n'est pas une réalité au sens plein, c'est une réalité conditionnelle, c'est une réalité hypothétique. Ce qui est propre à la réalité, c'est que ces faits hypothétiques seraient des faits non hypothétiques, des faits à part entière, non conditionnels, s'ils étaient présentement le cas. C'est ça que veut dire tout à l'heure ce que j'avais fait là. Quand F est présent, la réalité est constituée par un fait temporel F au temps T, si la réalité est constituée par F quand T est présent. Le réalisme standard, c'est celui qui fait la différence entre ces faits hypothétiques et le fait qu'ils ne soient plus des faits hypothétiques s'ils sont réalisés présentement. Et un réaliste non standard 1, celui qui admet que la réalité est faite par des choses différentes à différents moments, en fait, qui abandonne l'absolutisme, mais conserve la neutralité, parce que tous les moments sont bons à prendre. Le réaliste non standard 1, c'est celui qui nous dit donc que la réalité à un autre temps est une réalité alternative, complètement alternative. C'est pour ça qu'il peut admettre une forme d'incompatibilité des prédications. Ce qui nous est présenté à partir d'un moment donné, c'est ni une facette, comme dans le cas du réaliste, qui appelle ça des facettes parce que justement c'est pas la réalité, c'est ni une détermination hypothétique, d'une seule réalité qui se réalise pleinement et non hypothétiquement au moment présent, ce sont des faits qui appartiennent à des réalités alternatives et donc des faits à part entière appartenant à ces réalités alternatives. On peut noter une sorte de lien de famille entre cette position-là, la dernière, le réalisme non standard, et puis le pluralisme modal, si on veut. Il y a le fait qu'on a des morceaux séparés, complètement séparés, de réalité dans lesquelles chaque chose qui appartient à cette réalité est pleinement réelle, pas hypothétiquement réelle, ou pas une illusion, ou pas une facette, mais pleinement réelle. On pourrait appeler ça un réalisme temporel correspondant au réalisme modal de David Lewis en, concernant les possibilités, mais on n'est pas obligé de le faire. Voilà. Alors, toutes ces positions sont sympathiques, si je puis dire, mais elles ont quelque chose en commun qui ne me plaît pas. C'est finalement qu'elles partagent une forme de naïveté concernant le rapport entre point de vue et réalité. C'est qu'elles font des points de vue des choses très externes à la réalité, des choses relativement auxquelles la réalité peut se présenter soit hypothétiquement, soit comme une facette, soit comme une alternative. Mais que je ne suis pas sûr qu'elles comprennent très bien le point que j'avais soulevé au tout début de l'exposé, assez tôt dans l'exposé du moins, qui était quelle est cette idée, quel est ce lien particulier d'adéquation qu'on veut capturer, dont on veut rendre compte entre point de vue et réalité perspectivale. Rappelez-vous que c'était ça mon problème. Est-ce que les points de vue nous donnent accès à... Enfin, j'avais dit qu'il y avait une forme de naïveté plutôt à poser la question en termes de est-ce que les points de vue nous donnent accès à des faits supplémentaires que ceux qui sont délivrés par la description non perspectivale de la réalité. Et d'une certaine manière, c'est une façon naïve et peut-être inadéquate de poser la question que partagent un peu toutes ces positions. Le réalisme non standard 2 n'est pas aussi naïf. Ouais. Mais il est coûteux, il est très coûteux. Il est peut-être pas naïf, mais il est vraiment extrêmement coûteux. C'est une position dans laquelle on conserve la neutralité, on conserve l'absolutisme. C'est-à-dire qu'en fait, on est très MacTaggartien hein, dans les intuitions, parce que c'est les intuitions les plus difficiles à saisir dans l'argument de MacTaggart, sont bien les intuitions que j'appelle neutralistes et absolutistes, parce que c'est celles-là qui nous font comprendre pourquoi MacTaggart n'est pas un idiot quand il rejette l'objection indexicaliste, parce que c'est évidemment pas un idiot, mais c'est pas le problème de ça. C'est le problème, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Ben, il est neutraliste et absolutiste, et moi je suis MacTaggartien jusqu'à ce point-là. À savoir, oui, je suis neutre et absolutiste concernant la constitution de la réalité, mais par contre, je ne suis pas comme lui cohérentiste, et donc je deviens réaliste de ce fait, parce que lui est cohérentiste et donc devient antiréaliste. Donc j'assume pleinement la conclusion contradictoire de l'antiréaliste. Et je deviens un réaliste perspectival non standard, incohérentiste. À savoir, je pense que la réalité, il y en a une seule, voilà, vous n'avez pas des alternatives de réalité comme dans le réalisme non absolutiste, mais elle est incohérente et fragmentaire, c'est une forme de mosaïque mal agencée, comme je l'appelle. Il y a des parties de la réalité qui sont cohérentes, et il y a des parties de la réalité qui ne le sont pas. Et alors cette position-là, que je ne développerai pas plus, même si ça serait poétique, très vite, de développer une telle position, cette position-là, elle est intéressante par son contraste avec le réalisme non standard de première forme. Parce qu'au lieu de dire qu'il y a plusieurs réalités et plusieurs alternatives cohérentes de vue différents points de vue temporels, on admet qu'il y a plutôt une seule réalité, mais qu'elle est incohérente et qu'elle est envisageable, si vous voulez, d'un seul point de vue, enfin d'aucun point de vue temporel en particulier, plus exactement. Alors ce qu'on voit dans cette position, réaliste non standard 2, c'est que l'idée d'une adéquation entre point de vue et réalité a été légèrement modifiée, finalement. C'est ça le point conceptuel central de ma position par rapport aux trois autres, ou aux deux autres formes de réalisme et à l'antiréalisme plutôt, parce que finalement cette position est quasi plus proche de l'antiréalisme que... Enfin, même si c'est une position réaliste, elle admet beaucoup des prémices qui sont chères à l'antiréaliste, c'est-à-dire à MacTaggart. Ce qu'on peut voir dans les autres formes de réalisme temporel, c'est que... Donc ils engagent différentes formes de relations, d'adéquation entre le point de vue et la réalité. On a donc, d'un certain point de vue, qu'est-ce qu'on a ? On a des facettes pour l'antiréaliste. D'un certain point de vue, on a ou bien des déterminations hypothétiques ou bien des déterminations réelles, du point de vue du réaliste standard. Et selon le point de vue qu'on adopte, on a des alternatives. On a des réalités alternatives, selon le réaliste standard non absolutiste. Qui ressemble beaucoup, donc, quand même, de plus en plus à la chose de David Lewis, parce que selon le monde dans lequel on habite, réalité pointe indexicalement vers le monde dans lequel on habite, et là, c'est un peu la même chose, d'une certaine manière. Selon le point de vue temporel qu'on adopte, on aura des réalités temporelles à part entière, des alternatives temporelles à part entière. Donc, on a une position comme ça. C'est très bien, mais il me semble que ces positions font dépendre vraiment la réalité de diverses formes font dépendre de ce qu'on appelle la réalité, soit des déterminations, soit des facettes, soit des alternatives, enfin de ce qu'on appelle la réalité temporelle, soit des facettes, simplement des facettes, soit des déterminations hypothétiques, soit des alternatives, elles nous font dépendre ça d'une certaine conception de la relativité des faits à des points de vue temporels. Et après, on met des contraintes sur ces points de vue. Et il me semble que ce qu'on fait quand on est un réaliste non standardeux, c'est le point peut-être le plus spéculatif de mon exposé ce soir, c'est qu'on défend une relation inverse d'adéquation entre point de vue et réalité. On ne définit pas la réalité perspectivale à partir de points de vue, comme on le fait spontanément. Alors est-ce que les points de vue nous donnent accès à différents types de réalité? Est-ce que les points de vue nous donnent accès à des faits différents et supplémentaires par rapport aux faits qu'on pourrait décrire ou avoir d'un point de vue, d'un non-point de vue, sans prendre de point de vue? Il semble que ce qu'on dit quand on est un réaliste standard de type 2, c'est qu'on ne se pose pas de façon obsessionnelle la question du point de vue et de ce qu'il en découle. On se dit plutôt que la réalité est de fait incompatible, incohérente, fragmentaire, et que c'est ça qu'on appelle un point de vue. C'est peut-être des parties maximale de la réalité. Donc on pose vraiment cette question de l'adéquation entre point de vue et réalité fragmentaire dans les termes que j'appelais au tout début, qui étaient des termes quand même mystérieux, je m'en rendais compte à ce moment-là, de reality making. C'est-à-dire que le point de vue et la réalité sont des choses absolument conjointes. Ce n'est pas la réalité d'un certain point de vue, c'est de fait l'incohérence qui donne le point de vue, etc. Le fragment et le point de vue sont la même chose, si vous me permettez de terminer sur cette note un peu cryptique. Voilà, c'était ça que je voulais faire ce soir. Donc clarifier des positions réalistes variées, très, très différentes les unes des autres et dépendantes de la clarification de la notion de réalité chez MacTaggart, donc chez un anti-réaliste. Mes références étaient les suivantes. MacTaggart, les réalités du temps dans Mind en 1908. Michael Demet, qui présente des intuitions dans son article Defense of MacTaggart's Proof of the Reality on Time. Donc qui est un article très intéressant parce qu'il nous montre à quel point cet argument est à prendre au sérieux et qu'il est valide. C'est pas évident à première vue de dire il est valide, mais il est valide. Et d'ailleurs commence à esquisser dans cet article des questions concernant point de vue et réalité que j'ai reprises et développées ici. Fine, dans un article qui n'est pas encore sorti, fait un peu la même chose que Demet, mais de façon plus systématique. Et il y a peu d'articles sur les points de vue dans la philosophie analytique contemporaine, mais il y en a un qui est intéressant et qui cite en partie MacTaggart, qui est celui de Andrew Moore. De 1987. Donc ça, c'était mes quatre références intéressantes.
Merci Sacha de cet exposé extrêmement, enfin qui avait une double qualité absolument évidente. D'abord d'être extrêmement rigoureux dans son déroulement et dans sa deuxième partie d'être extrêmement original dans sa solution. Je le dis avec d'autant plus de, de liberté que je connais un petit peu la littérature sur cette question. Et j'ai vraiment l'impression que dans ta deuxième partie, tu ajoutes des choses, des arguments et des positions qui sont extrêmement originales et qui, à ma connaissance, n'ont jamais été avancées à propos d'une argumentation qui elle-même a donné lieu. Je ne sais pas si on a jamais fait le compte, mais sans doute des centaines de contributions les plus importantes et les plus prestigieuses qui soient en général pour réfuter cet argument. Et à chaque fois, bon, il se trouve, une petite anecdote, qu'il y avait le temps au programme de l'agrégation il y a quelques années, je m'étais amusé au début d'année à réunir les agrégatifs et à passer quelques heures à décortiquer l'argument de MacTaggart qui passe aujourd'hui pour un philosophe analytique, alors qu'il était très, très anti-analytique. C'est un néo-hégélien, n'est-ce pas? C'est le genre de néo-hégélien face auquel se trouvait Russell, puisque c'était le prof de Russell et le grand adversaire de Russell. Et on peut dire que toute la philosophie analytique de type russellien ou de type logiciste s'est construite, d'une certaine manière, contre cette tendance qu'incarnait MacTaggart et qui était totalement occulté, toute cette métaphysique extraordinaire de MacTaggart et d'autres d'ailleurs qui ont été tout à fait oubliés. Cela dit, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est comment, mais c'est une parenthèse, comment MacTaggart, qui était néo-hégélien, pouvait-il à ce point-là avoir cette conception extraordinairement parménidienne de la réalité et auquel tu as donné une alternative. Alors, comme il est déjà tard et que je t'ai déjà plusieurs fois interrompu, je voudrais peut-être essayer de résumer en deux ou trois phrases toute la première partie qui, en dépit du fait que tu l'as présentée de façon relativement originale pour présenter ta solution, c'est essentiellement une présentation particulièrement particulière ou singulière ou personnelle d'une argumentation qui est considérée comme relativement classique depuis un siècle, qui est l'argumentation de MacTaggart contre la réalité du temps. Est-ce que je peux la résumer de la façon suivante, puisque finalement on va arriver à deux positions que tu élimines pour en étudier deux autres, la position qu'on peut appeler réaliste standard, la position qu'on peut appeler anti-réaliste MacTaggartienne, et tu vas introduire, et ça c'est tout à fait nouveau, original, tout à fait admirable, deux positions nouvelles, l'anti-réalisme 1, le réalisme non standard 1 et 2, grâce à une décomposition qui est tout à fait originale, que tu fais, l'argument dans lequel tu vois les présupposés de la réalité qu'il y a derrière, ce qui n'a jamais été en effet fait, puisqu'on a une notion au fond relativement grossière de la réalité.
La plupart des commentateurs voient la notion de réalité chez MacTaggart de façon quasi rhétorique.
Exactement, oui. Il y a une réalité of time, on se dit, bon ben voilà, le temps n'existe pas. Bon. Oui, mais une reality of time, tout le monde se dit, bon, il démontre que le temps n'existe pas, or il doit y avoir un sophisme là-dedans, puisque clairement, nous sommes, il y a du temps, bon. Alors, apparemment, l'argument, si on y introduit la notion de perspective, peut se résumer à mes yeux, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, à l'opposition entre ces deux êtres, ces deux positions, réaliste standard et anti-réalisme MacTaggartien, qui seraient les suivantes. Posons-nous la question, qu'est-ce que serait le fait de pouvoir décrire entièrement notre monde? C'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait d'avoir un point de vue, disons, objectif sur notre monde, que tu as appelé complet, il y a aussi la notion de complétude, mais bon. Et ça, c'est relativement simple à imaginer. J'emploie ce mot, imaginer. On va supposer un esprit pur, non spatial, voilà, qui est divin, ou je ne sais pas quoi, ou demi-divin, bon, esprit un peu, voilà, et qui regarderait notre monde sans y être nulle part. Et ça, c'est relativement facile, parce qu'on a l'habitude de penser que l'esprit est nulle part, bon, qu'il n'est pas dans l'espace, voilà. Et donc, on imagine un esprit pur qui est nulle part, et on se demande comment il perçoit notre monde. Il aurait un point de vue, disons, il aurait la science absolue du monde, cet esprit pur. Et alors, à ce moment-là, il y a deux positions. Il y a une position qui consiste à dire ben, cet esprit pur qui aurait un esprit qui ne serait pas soumis à la contingence spatiale, qui serait donc le point de vue de nulle part. De deux choses l'une, première hypothèse, eh bien, il serait aussi hors du temps, entre guillemets, position MacTaggartienne, et il verrait le monde uno intuitu, c'est-à-dire qui verrait exactement l'ensemble du monde comme le dieu de la mythe le conçoit avant la création, c'est-à-dire qui verrait tout l'univers d'un seul bloc, hein, il le verrait ou il l'imaginerait ou il se représenterait ou il le concevrait, et il aurait la vraie vision de la réalité. Position MacTaggartienne antiréaliste, c'est-à-dire le temps n'est pas réel, le temps, nous sommes des êtres temporels, parce que nous voyons les choses temporellement, selon l'avant et après, parce que nous sommes nous-mêmes des êtres temporels qui sommes soumis, mais de la même façon, nous sommes des êtres spatiaux, nous sommes quelque part, et donc nous avons du mal à imaginer que ce serait que d'être hors de l'espace. Sauf que ça, nous pouvons l'imaginer parce que nous avons l'habitude, ou nous croyons avoir l'habitude de penser ce que c'est qu'un esprit non spatial. Alors, la position anti-réaliste standard consiste à dire, c'est au fond la position MacTaggartienne, et qui est relativement, qui a une longue tradition, consiste à dire, du point de vue de nulle part, il y a aussi le point de vue de nul moment. Et donc, il voit l'univers bloc, il voit tout. C'est-à-dire, il ne voit pas ça dans l'espace. Il distingue très bien ce que nous appelons l'espace et le temps, mais il le voit ça comme deux ordres différents. Un ordre d'un côté de position spatiale et un ordre d'apparition, taxis, n'est-ce pas, un ordre de succession, par opposition à un ordre de position. Et lui est hors du temps, n'est-ce pas, et donc il voit l'univers hors du temps, il voit tout ce qui se succède, il voit l'antérieur, le postérieur et le simultané, mais avant, après, n'ont pas de sens pour lui, pas plus qu'ici, maintenant. Et le deuxième point de vue consiste à dire cet être qui ne serait nulle part et qui pourra avoir, donc décrire le monde de loin et voir tout du monde, eh bien, il pourrait dire voilà ce qui est réel, c'est que à tel instant, c'est en ce moment, ça veut dire quoi ? Ça signifie il est réel, ceci est réel, qui pour nous est présent. C'est-à-dire qu'il verrait le monde, l'histoire du monde, dynamiquement. Il verrait les choses arriver. Il verrait que cela se passe et que ça, c'est réel. Il pourrait peut-être, s'il était omniscient, prévoir tout ce qui allait se passer. Mais il le verrait comme quelque chose qui n'est pas réel, comme quelque chose qui n'a pas lieu. Et ça, c'est la proposition, au fond, que tu appelles réaliste standard. Oui ou non ? Est-ce que tu serais d'accord avec c'est-à-dire qu'il dirait qu'il y a une réalité du temps, c'est-à-dire que ce qui arrive en ce moment, il est réel, ça arrive réellement, et donc il verrait un univers, cet être-là verrait un univers dynamique et il ne verrait pas un univers statique, cet anti-réaliste, ce réaliste standard. Il verrait les choses se dérouler, il pourrait être omniscient, mais pour lui, il verrait ce qui va arriver.
Là, tu fais comme si...
Oui.
Tu fais comme si, donc tu pars de la métaphore classique de l'esprit parce que ça nous facilite la vie.
Ça, oui, ça parce, que, la parce représentation, que c'est ça qu'une représentation complète de la
problème.
Réalité.
Bon. Oui, voilà, donc. Et là, maintenant, tu affaiblis, en fait, les pouvoirs de cet esprit.
Je me pose la question de savoir...
des positions. C'est-à-dire que là, l'esprit,
tout
à l'heure...
Ouais. Et ça, c'est au fond une manière de raccorder ça à une discussion extraordinairement classique, hein, de savoir si on peut faire la même chose... sur l'espace et sur le temps, c'est-à-dire si on peut... alors, en tout cas, peu importe si ma métaphore ou ma...
Non, mais ta métaphore est éclairante, parce qu'on peut voir ça comme ça, sauf que oui, c'est ce que je craignais, c'est que, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi dans ces termes-là, mais peut-être qu'une des conséquences du fait d'aborder le problème comme ça, c'est qu'on sera tenté de reporter les arguments à d'autres cas que le temps, peut-être, je ne sais pas. J'ai pas réfléchi. Peut-être que c'est une conséquence. Et ça, dans ce cas-là, c'est une conséquence qui est pas très bonne pour moi. Parce que je crois vraiment que les arguments que j'ai posés ce soir concernent le temps et pas autre chose.
Je suis tout à fait d'accord. Je ne crois pas qu'on puisse aller bien au-delà, puisque je pense que l'asymétrie apparaît assez clairement. C'est-à-dire qu'un esprit qui ne serait nulle part, verrait une réalité qu'il pourrait décrire entièrement spatialement par des relations, alors que la question de savoir si cet esprit qui ne serait pas situé pour nous, s'il ne serait pas, il verrait une réalité, il pourrait faire la différence en disant ce qui a eu lieu, c'est-à-dire ce qui est réel dans le monde et ce qui n'a pas eu lieu encore dans le monde. Pourrait-il faire la différence ? C'est ça, je veux dire, il pourrait faire la différence en disant position anti-réaliste. Pour eux, ça n'a pas eu lieu. Mais en réalité, tout cela est sur le même plan. Mais position réaliste, il le voit lui-même comme quelque chose qui n'est pas réel et qui est simplement, dont il a simplement la préscience. Voilà. Est-ce que ça te convient comme...
Oui. En fait, ça me convient parce que ça décrit les choses telles que je les ai faites, sauf que tu introduis des termes épistémiques, préscience ou pas préscience, parce que tu as pris un esprit au départ.
D'accord.
C'est tout.
Bon.
Et moi, j'ai pas de
termes... Mais quand
tu parles
de description complète...
Voilà, je suis quand même parti de ça.
Tu penses qu'on peut avoir... Bon, enfin, en tout cas, l'originalité à partir de là de ta position, ça consiste à renvoyer dos à dos, d'une certaine manière... les deux, pas tout à fait dos à dos, parce que tu veux être réaliste, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a vraiment, réellement du temps, bon, que ce n'est pas une illusion de perspective, parce que nous sommes des êtres temporels, voilà, et puis nous sommes entraînés par là, non, parce qu'il y a des physiciens contemporains qui soutiennent que tout cela, l'idée qu'il y ait du temps, même quand on prend au sérieux certains arguments de physique relativiste, est fausse. En réalité, nous décrivons le monde temporellement parce que nous sommes nous-mêmes temporels, mais qu'en en fait, il n'y a pas. Bon. Donc, ta position est il y a réellement du temps. Simplement, qu'entendons-nous par réellement ?
C'est ça.
Voilà. Et on passe d'une vision naïve de la réalité à une vision beaucoup plus élaborée. Et tu dis que dans cette notion, il y a en fait quatre paramètres qui, en effet, n'ont jamais été comme ça distingués et analysés. Et les quatre paramètres, c'est en effet, enfin, il n'y en a plus que trois maintenant, puisque le réalisme... Il y en a surtout trois, en fait, trois paramètres dans la réalité, c'est-à-dire que neutralité, absolutiste et cohérence. Alors évidemment, tu soutiens la position qu'on appellerait en philologie la lectio difficilior, c'est-à-dire tu soutiens la position la plus difficile à soutenir, peut-être pour les besoins de l'argument, et quel est ton degré d'adhésion profonde à cela, c'est une question qu'on pourrait te poser, mais... en rejetant les deux positions et en disant qu'au fond, tu veux conserver ce qui semble le plus facile à abandonner, finalement, et tu veux, en réalité, abandonner ce qui semble le plus difficile à abandonner, à savoir la notion de cohérence. C'est-à-dire que tu penses qu'il peut y avoir, on peut concéder, que dans la réalité, il y a des points de vue qui sont incompatibles entre eux, et qui le sont réellement, et qui ne se sont pas des points de vue perspectivaux sur la réalité, simplement contre quoi...
Qui ne sont pas externes à la réalité, c'est ça que je veux dire.
Qui ne sont pas externes à la réalité. Bon. Alors évidemment, cette quatrième, dernière position est une position relativement difficile à soutenir, peut-être difficile à exprimer. La question est de savoir si elle est entièrement exprimable. La question est de savoir si... le fait même de tenter de l'exprimer ne la trahit pas d'une certaine manière. Bon, mais auparavant, je voudrais, avant que nous nous lancions dans cette dernière position, l'examen de cette dernière position, je voudrais te poser une question, et puis après on pourra passer la parole à la salle et éventuellement faire des objections. Alors... pourquoi as-tu besoin, dans ta démonstration, de conserver ce que tu appelles la neutralité ?
Tu veux dire dans ma position finale ou
dans ma position finale.
Ou dans la preuve de l'argument ? Parce que dans la preuve de l'argument, il y a deux questions. Alors, dans la preuve de l'argument... pareil.
Oui, la preuve d'argument, ça paraît assez clair.
Voilà, j'en ai besoin là. Pardon.
Oui, ça.
Pour montrer que, donc, on admet, donc, on veut dire un événement, un fait qui est le cas, un temps constitue tel quel la réalité. Donc, ce temps est privilégié. On en a besoin. Pourquoi ? Parce qu'on veut dire que la réalité est, de manière plausible, constituée par d'autres faits temporels qui sont le cas d'autres temps T'. Donc, ça, c'est quelque chose
des. D'autres moments.
Ouais. Ou à d'autres moments. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Je ne veux pas dire que la réalité est ce qui est constitué par...
Non, voilà. Ça, on comprend bien que dans la position de MacTaggart, il veut qu'il y ait une neutralité de la réalité. Mais pourquoi toi, tu en as besoin ?
Parce que je pense que c'est une intuition sur la réalité qui est forte et qui est nécessaire de préserver. Que ce soit en fait, je trouve que l'antiréaliste, comme MacTaggart, c'est celui qui donne le plus de poids à la notion de réalité. Et c'est bien pour ça qu'il en tire une contradiction, parce qu'il ne peut pas combiner tous ces poids entre eux. Alors ma stratégie, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut le plus facilement abandonner ? Alors je reviens finalement un tout petit peu sur ce que tu as dit concernant ma propre stratégie. Finalement, j'abandonne ce qui est le plus difficile, abandonner la cohérence, et puis j'abandonne ce qui est le plus difficile et je garde ce qui est peut-être le plus facile à abandonner. Ben, en fait, je pense que formellement, tu as peut-être raison, mais dans les faits, pour moi, si on est sérieux sur l'explication de la réalité, c'est l'inverse. En fait, c'est peut-être plus facile... quand on a une certaine notion de réalité en tête qui était celle de MacTaggart et qui est finalement celle de ton esprit, hein, de tout à l'heure. C'est-à-dire que la réalité, c'est quelque chose qui s'envisage d'un point de vue absolu. C'est quelque chose qui ne doit pas faire appel à des points de vue relatifs desquels la réalité serait mieux perçue ou serait plus la réalité que d'un autre point de vue. C'est ça que veut dire la neutralité. Hein. Et l'absoluté, c'est vraiment le point de vue de nulle part, quasiment d'une certaine manière, qui est là. Eh ben, je pense que c'est plus dommage d'abandonner ces intuitions-là concernant la réalité que la cohérence, parce que c'est vraiment des intuitions qui sont très fortement liées à ce que c'est que la réalité pour nous. Donc finalement, j'ai envie de les garder comme l'antiréaliste. L'antiréaliste, il les garde parce qu'il ne peut pas tout combiner. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que... Pour moi, alors tu demandes mon degré de sincérité sur ma position finale. Alors, je ne suis peut-être pas complètement 100% sincère, mais en tout cas, je trouve là où je suis sincère, c'est que je pense que c'est quasiment plus facile d'abandonner la cohérence que d'abandonner l'absoluté ou la neutralité, parce que quand on abandonne la cohérence, on dit la réalité est incohérente, c'est un problème, je suis d'accord, mais on parle vraiment de la réalité. Par contre, quand on abandonne neutralité et absolutisme, c'est plus tout à fait sûr qu'on parle réellement de la réalité. Ou qu'on parle de la réalité comme on voudrait le parler, et comme en parle en tout cas MacTaggart. Est-ce que je suis clair? Donc j'ai besoin de la neutralité, parce que pour moi, la réalité, c'est pas quelque chose qui est plus réel à un moment qu'à un autre. Alors, et ça, c'est une intuition forte.
Juste pour qu'on comprenne bien les conséquences de ta position, est-ce que tu pourrais répondre de façon simple? Est-ce que dans ta position, qu'est-ce qui reste de ce que nous entendons par le temps dans ta position qui soit réel? Est-ce que, je ne sais pas si ma question est claire.
Le point principal...
C'est-à-dire le temps... Il y a le changement.
Le changement, et le changement qui donne lieu effectivement à des formes d'incohérence, à des formes d'incompatibilité, d'application des prédicats. C'est toute la différence entre MacTaggart et cette position que je défends, c'est que MacTaggart pense aussi que le changement est quelque chose qu'il faut préserver, mais il n'arrive pas à le capturer parce qu'il y a une incompatibilité. Et moi, je garde le changement et j'admets que le changement donne lieu à des réalités fragmentaires.
Alors,
à une réalité fragmentaire, pardon.
D'accord. Donc, ta réponse, c'est je concède entièrement l'argument, en tout cas la première partie de l'argument. Enfin, tu concèdes les deux parties de l'argument à MacTaggart. C'est-à-dire que dans l'intuition que nous avons du temps, ou dans le concept même de temps, il y a nécessairement inclus celui de changement.
Oui.
Bon. Alors, je vais te faire une objection qui est assez banale, assez classique contre cet argument, qui est le suivant. Quel est le sens du mot changement dans cette position?
Je m'y attendais.
Comment?
Je m'y attendais à ça.
Bon, alors ça, c'est une objection très, très classique, c'est-à-dire qu'il semble que l'emploi que l'on fait dans cet argument du mot changement souffre d'une équivoque assez grave, c'est-à-dire que dans un cas, on parle du changement au sens du devenir, et c'est le passage du fait que les choses qui étaient présentes, qui étaient futures, deviennent présentes et deviennent puis sont passées. C'est le devenir au sens le plus ancien du terme, tel qu'on le trouve dans énormément de textes de l'Antiquité, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle le devenir, et que parfois on appelle ça tout simplement le changement. Ça, c'est le premier sens. Il y a un deuxième sens, qui est un sens relatif, dans lequel on dit qu'une chose change si et seulement si, hein, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont tenté de montrer, que si et seulement si, elle demeure la même. C'est-à-dire que seules les substances sont susceptibles de changer, dans la mesure où on a un substrat du changement, et que changer pour une substance qui est désignable, par exemple pour cette table que je peux montrer, changer, c'est de passer, elle était blanche, elle devient noire, d'accord. Donc elle a un prédicat, elle a un autre prédicat, mais il y a un substrat. Bon. Et une thèse relativement banale, qui est une analogie de l'expérience de Kant, c'est que seules les substances peuvent changer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que seul ce qui ne change pas est susceptible de changer. Or, n'y a-t-il pas dans l'argument de MacTaggart le passage d'un sens à l'autre? Voilà. Car c'est évidemment, si on considère que le changement, quand on considère le changement au sens numéro 2, qu'on y introduit la contradiction. Mais évidemment, il n'y a pas de contradiction en réalité, puisqu'on a un substrat. Alors que dans le second cas, la notion même de devenir n'est en soi pas contradictoire. Et c'est seulement quand on réinterprète le devenir dans des termes prédicatifs, c'est-à-dire que quand que l'on va introduire la contradiction. Je vais donner un exemple. Pour pouvoir introduire la contradiction, il faut cesser de parler de substance comme Sacha Bourgeois-Gironde ou cette table, en disant Sacha Bourgeois-Gironde, il était jeune, il est moins jeune, ou il est vieux, excuse-moi, mais enfin, en tout cas, là, j'ai deux prédicats contraires, au moins, et bon, je dis, c'est le même, et voilà, bon, ça, c'est classique, le changement, c'est le passage d'un prédicat à son contraire. Ça, c'est l'interprétation aussi ancienne que Platon ou Aristote du changement. Très bien, et là, j'ai deux prédicats contradictoires. Alors, on passe de façon subreptice d'une ontologie de la substance, à une ontologie de l'événement. Et on dit, Ah oui, mais attention, on veut que quelque chose change. Et ce que tu as pris comme exemple de changement, ce qui est un sophisme peut-être, le fait que tel événement qui était futur est présent et devient passé. Mais les événements, et donc tu fais apparaître une contradiction en donnant des prédicats, comme passé, présent et futur, à des choses qui ne sont pas des substances, qui sont déjà dans le temps, qui sont des événements. Par conséquent, et qui ne sont, peuvent pas être des substrats, c'est-à-dire des choses permanentes auxquelles je vais prêter des prédicats contradictoires. Et pour ce faire, je dirais tout simplement, un événement de dire qu'il est présent, de dire qu'il est futur et qu'il est passé, je ne lui prête pas de prédicat, parce que l'événement n'a absolument pas changé, n'est-ce pas ? Il a lieu, voilà. Et dire qu'il a changé, c'est changer complètement de sens du mot changement. Alors voilà mon objection, elle est assez classique, elle n'est pas de moi, elle a souvent été faite. Comment et donc il n'y a aucune contradiction. Enfin, il y a une contradiction pour une substance qui est considérée d'un côté comme permanente, d'un autre côté comme changeant, mais ça c'est classique. Mais il n'y a pas de sens à prêter des prédicats, des prédicats temporels à des événements. Comment tu...
Oui, bah oui. Bon, je ne m'attendais pas à ce point quand même d'objection. Je m'attendais à une autre objection, mais finalement, il y a une autre objection qui est qu'on peut très bien concevoir la réalité du temps sans impliquer le changement. En fait, on peut concevoir le temps indépendamment du changement. Et que la conception que le temps implique le changement, c'est une certaine conception qui s'appelle relationniste, qui est aussi d'ailleurs aristotélicienne à la base et qui a été développée à l'époque contemporaine aussi comme un argument contre MacTaggart. Je m'attendais à cette objection. Alors, je sais à peu près répondre à cette objection par le relationnisme. Et mais ceci dit, j'essaie quand même de répondre à ton objection sur finalement le double sens que peut revêtir le mot changement et qu'il y a une certaine confusion apparente dans la preuve de MacTaggart et que j'aurais importé dans mon propre argument cette confusion apparente. Alors, je vais répondre en deux temps. En premier temps, je veux dire qu'effectivement, il semble y avoir cette confusion apparente chez MacTaggart. Et dans mon deuxième temps, ça sera de dire peu importe, je réponds de toute façon dans les deux cas, mon argument il porte dans les deux cas. Quelle que soit la conception du changement qu'on adopte, mon argument marche. L'argument que j'ai présenté. Alors pourquoi ? Alors parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment cette confusion chez MacTaggart, même s'il y a l'air d'avoir la confusion. Où il y a la confusion ? Donc confusion entre quoi ? Confusion entre changement pensé en termes de devenir et changement pensé en termes de changement de propriété d'une substance, par exemple. Or là, on a des événements. Or je n'oublie pour le moment la question événement-substance, admettons que ce soit des substances dont on parle ou des événements, enfin peu importe, on reviendra là-dessus. Donc effectivement, MacTaggart dit il ne peut y avoir de changement que relativement au terme de la série A, parce qu'un événement devient présent, était futur et sera passé. Donc c'est comme s'il prédiquait des prédicats à une substance et qu'il exprimait le changement dans ces termes-là. Donc c'est comme s'il voulait nous parler du devenir et qu'il utilisait le vocabulaire de l'autre type de changement que le devenir. Comme s'il n'avait pas capturé exactement.
Il a substantialisé des événements qui n'ont de sens que parce qu'ils occurrent, enfin parce qu'ils ont lieu, et comme s'il les avait substantialisés en leur prêtant de prédicats contradictoires. Et c'est comme ça qu'il fait apparaître une contradiction dans le temps.
Alors j'ai deux réponses à ça, et ça va permettre de dissiper le doute sur ce que je fais. Dans ce que j'ai fait finalement dans ma généralisation de l'argument, j'ai cessé tout à coup, sans le dire, de parler d'événements. Et en fait, j'ai parlé de substances. Et j'ai parlé d'attribution de prédicats à des substances. Donc on pourrait dire, j'ai pris le problème dans ce sens-là. Et j'ai parlé d'exemples comme je suis assis, je suis debout. D'ailleurs, j'ai même cessé d'ailleurs de parler de temps à ce moment-là. Mon argument était généralisable à un format substantialiste des événements à ce moment-là. D'accord ? Et je pense que l'argument marche dans ce cadre. Est-ce qu'il peut marcher dans le cadre du devenir ? Ça serait embêtant, parce que si ce n'était pas des cadres vraiment équivalents dans mon argument, ça serait un problème. Parce que en fait, ce qui intéresse chez MacTaggart, je crois que dans la preuve de MacTaggart, ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse, c'est plutôt le devenir. Ce qu'on n'arrive pas à capturer, c'est le changement. Quelque chose arrive, advient à l'existence, quelque chose cesse d'exister, etc. Alors, est-ce qu'il a...
quelque chose.
Un événement.
Oui, ou un état du monde.
Alors, si on parle d'état du monde, je pense que le problème est dissipé, précisément. Parce que ce que caractérise MacTaggart, c'est plutôt le fait que la réalité change. Ce qui veut dire par un événement devient passé, devient futur, je ne crois pas que ce soit une erreur de catégorie, qu'il applique un certain vocabulaire du changement au devenir.
Oui, mais on ne peut pas dire dans l'état du monde qu'il change.
Je pense qu'il veut capturer le devenir.
On peut dire qu'un état du monde est autre qu'un autre état du monde. On ne peut pas dire qu'il change. Parce que si on dit qu'il change, c'est que précisément on le substantialise. C'est-à-dire qu'on il faut déjà que j'ai une base. Et si la base, c'est le temps lui-même, ça n'a plus de sens.
C'est pas le temps, c'est la réalité. C'est-à-dire que quelque chose cesse d'exister, existe, existera. Parce que c'est bizarre qu'il donne ça comme exemple de changement et pas un changement d'une substance. Alors, là aussi, je vais être charitable avec lui, si tu veux. Est-ce qu'il a vraiment fait cette erreur? Est-ce qu'il a parlé des événements comme des substances? On a l'impression qu'il a fait cette erreur parce qu'il applique le vocabulaire qu'on pose habituellement chez Aristote. Voilà, un truc a telle propriété à un moment, et ensuite a une telle propriété. Mais justement, il ne veut pas dire un truc a une telle propriété à un moment T, une telle propriété à un moment T plus 1. Ça serait complètement circulaire comme argument s'il faisait ça, s'il relativisait l'occurrence des propriétés à des instants donnés. Il veut dire quelque chose est absolument futur, absolument présent, absolument passé. Et ça, il l'est conjointement.
Quelque chose, c'est toujours des événements. C'est quoi l'exemple qu'il prend? C'est la mort de...
Oui, la mort de la reine Anne.
La mort de la reine Anne. Bon, c'est ce qu'on appelle un événement.
Oui, il prend des événements.
Mais pour Anne, évidemment, ça a un sens de... Oui, Anne était vivante, elle est morte. Bon, c'est un changement.
Mais c'est les événements qui sont prédiqués.
Le problème, c'est qu'il prend les événements comme sujet des prédicats.
Oui.
Et les prédicats, les seuls qu'il puisse attribuer... à des événements, c'est précisément les prédicats.
Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il capture le changement en termes d'événements, en termes d'apparition d'événements, d'occurrence d'événements. Voilà. Ça semble clair. Oui, ça semble clair. Ce qui te semble peut-être plus bizarre, ou comme une faute de catégorie, c'est que pour parler de ça, il utilise la prédication.
Exactement.
Et ça te semble curieux. Mais je pense qu'il n'a pas le choix, et qu'en fait, c'est possible, parce qu'il n'utilise pas la prédication relativisée à des moments, il utilise la prédication toute simple.
Oui, mais
donc il n'est pas circulaire.
C'est une question de schéma catégoriel parce qu'on n'est pas obligé de prédiquer, on n'est pas obligé d'utiliser le vocabulaire de la prédication lorsqu'on parle des événements pour les indexer à des instants. Et c'est évidemment, je ne peux avoir de contradiction que quand il y a des dictions, si je puis dire, c'est-à-dire quand il y a deux prédicats. Mais je ne peux pas avoir de contradiction lorsque entre il pleut et il pleuvait. Où il pleut, il y a une contradiction entre il pleut et il ne pleut pas, à condition que je sous-entende implicitement maintenant. Mais il ne peut pas y avoir de contradiction lorsqu'il n'y a pas de prédication à quelque chose. C'est ça mon objection. Et là, il ne peut prédiquer les événements qu'au temps, précisément. C'est ça qui est. Tu vois, et là, tu me dis non, il le prédique de la réalité, mais c'est qu'il y a donc une réalité substantielle. Donc l'argument.
À la limite, c'est ça qu'on peut lui faire comme reproche, voilà, qu'il substantialise un peu la réalité, voilà. Oui.
Et... socialise une réalité qui étant considérée comme le substrat est forcément conçue en termes absolutistes et donc atemporels.
Alors moi j'étais plus ou moins sensible à ce problème parce que je me suis dit je vais pas parler des événements en fait, j'ai voulu évacuer ça parce que je pense que c'est pas trop difficile de reconstruire ce que j'ai fait qu'on adopte un schéma ou un autre en fait. Je pense que ça ne change pas grand-chose, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je pense que qu'on veuille parler du devenir, c'est-à-dire du changement, comme semble vouloir le faire MacTaggart, ou qu'on veuille parler du changement en termes de modification de propriété, de passage d'un propriété, de prédication de propriété incompatible, ça ne change rien, à mon avis, à ce que je fais. Mais bon, je ne l'ai pas montré, ceci dit.
Bah,